Bonsoir à tous. Ben, nous voici de nouveau réunis, mon cher vieux pays, après 15 jours passés à hanter les routes de Normandie, du Perche, de la Mayenne, du Berry, de la Touraine. Et ce qui m'a confirmé, d'ailleurs, dans une certitude que j'avais déjà, c'est que la France est de très très loin le plus beau pays du monde, enfin, de tous ceux où je suis allé. Je ne connais pas bien le Tibet. Connaissez-vous le Tibet, mon cher Margot?
Non, c'est non. Un des quelques pays que je ne connais pas.
Ben moi non plus. Alors, c'est peut-être plus beau que
mais
la France.
Mais c'est beaucoup moins beau que la France.
Alors, ce soir, vous avez entendu Marc Dem. On fait une demi-émission, puisque la deuxième émission sera... Enfin, je serai là, mais elle sera consacrée au Fou du Roi. Et la première partie, vous venez d'entendre la voix de Marc Dem, qui nous a fait la grâce et la gentillesse de venir parler de son livre. Je dis la grâce et la gentillesse parce que son dernier livre n'est pas encore paru. Et quand je vais vous en avoir donné le titre, je suis sûr que vous allez vous resserrer autour de vos postes de radiodiffusion, puisque je sais que c'est un sujet qui passionne beaucoup, beaucoup d'auditeurs. C'est le fameux Troisième secret de Fatima. Le livre s'appelle Le Troisième secret de Fatima de Marc Dem, publié aux éditions du Gaucher. Curieux lapsus. Aux éditions du Rocher. Il sort dans quelques jours. Après-demain, je crois.
Il sort après-demain, oui.
Voilà. Et puis, alors là, pardonnez-moi, Marc, de faire ces hiérarchies, mais j'ai une très grosse surprise, et je sais que ce sera une très très bonne surprise pour tous les auditeurs de cette émission. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes en mer ?
Non, je suis sur la route.
Ah, vous êtes sur la route à bord de votre automobile à pétrole ?
Absolument.
Eh bien, je vous remercie alors d'avoir eu la gentillesse, Jean-Marie Le Pen, d'accepter de nous parler. Vous ne conduisez pas, j'espère ?
Non, absolument pas. Non, je suis passager de ma voiture.
Bon, eh bien, écoutez, alors donc on peut parler tranquillement. Vous avez fait récemment une rentrée, la rentrée traditionnelle à la Trinité, qui a fait l'objet d'un compte-rendu qu'on pourrait dire relativement correct dans la presse.
Oui, ma foi, une fois n'est pas coutume, mais saluons cette initiative en espérant qu'elle va ouvrir une ère de démocratie et de liberté de l'expression.
Alors je crois savoir que juste avant de prendre la route, vous étiez chez René Boin.
Absolument.
Qui va nous donner l'occasion d'un test en grandeur nature prochainement.
Absolument. Il va être candidat pour la troisième fois à l'élection législative partielle de Saint-Nazaire contre le hiérarque socialiste Évin et contre l'actuel député invalidé Garnier.
Oui. Alors ces élections, on sait à quel moment elles vont se produire ? Enfin, cette élection.
Elle se produit, je pense, au début du mois de septembre, puisque j'irai apporter mon soutien au cours d'un meeting public le 7 septembre à Saint-Nazaire. Je crois d'ailleurs que toutes les vedettes de tous les partis sont mobilisées pour soutenir leurs candidats et qu'en effet, l'élection dans un fief qui était socialiste depuis, je crois, 60 ans ou 70 ans et qui venait d'échapper au ministre Évin et aura une signification importante.
Alors, quelle est l'ambiance générale en ce moment au Front National au moment de cette rentrée qui va se passer d'une façon particulièrement dynamique puisque...
J'ai presque scrupule à le dire, dans un pays où tout va généralement mal, le Front National va bien. Il va bien parce que il est composé de militants, d'adhérents et d'électeurs qui ont les pieds sur terre, et ce qui ne les empêche pas d'avoir le regard fixé au ciel, n'est-ce pas ? Et ils font contre mauvaise fortune bon cœur, et ils sont assez satisfaits de voir que les prévisions qu'ils ont faites se trouvent réalisées et se voient confortés dans l'idée qu'il n'y a pas d'autre solution que d'appliquer la thérapeutique préconisée par les dirigeants du Front National.
Alors c'est tellement sensible que même le point qui n'est pourtant généralement pas très favorable, pas suspect de grande sympathie, a consacré une double page à quatre personnes, à quatre militants du Front National, et curieusement, ça ne présente pas le caractère de perfidie habituel. On a l'impression que les choses sont en train... Alors, est-ce que c'est l'exemple Balladur, je dirais ? Est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez été reçu par le Premier ministre a pu donner une espèce de leçon de courtoisie politique à l'ensemble de la classe politique et médiatique.
Je souhaiterais que cet exemple soit suivi, mais je pense que cela tient à autre chose, c'est que les médias, quoi que soient leurs préjugés idéologiques ou philosophiques, sont obligés de tenir compte de l'opinion générale de leurs lecteurs, et que cette opinion évolue en faveur du Front National et que relativise les campagnes de diabolisation dont nous avons été les victimes. Alors les gens, en réfléchissant, se disent après tout, le Front National a bien eu raison dans beaucoup de domaines et par conséquent nous devons prendre son opinion en considération.
Alors, il y a une autre chose qui est amusante dans la presse ce matin, c'est dans le Figaro, une interview d'un homme qui s'appelle, si je ne m'abuse, Augerstein ou quelque chose comme ça, qui est le big boss du Spiegel allemand, et qui après avoir... Le Spiegel, c'est une grande revue allemande, oui. Enfin, un grand journal allemand, et qui après avoir expliqué ou laissé entendre qu'il détestait les Français en long, en large, en travers, en profondeur et en hauteur, interrogé sur les gens qu'il déteste le plus... en France, parmi tous les Français qu'il déteste, dit à propos de Jean-Marie Le Pen, je ne veux pas en parler, je ne veux pas gaspiller les mots. Alors en quelque sorte, pour quelqu'un qui déteste la France, vous êtes le sommet de la détestation.
Le net plus ultra, mais venant du Spiegel, je dois dire que je prends cette détestation comme un hommage du vice à la vertu.
Oui. Alors, cette rentrée politique à la Trinité a été placée essentiellement sur le plan... enfin, vous avez rappelé les obligations morales. Je crois que c'est assez rare dans la classe politique en France pour être relevé. Vous avez rappelé les impératifs moraux qui s'imposent aux hommes politiques.
Oui, je voudrais faire une remarque préalable à ce débat. C'est que je pense que les observateurs, les journalistes qui étaient là, ont été frappés qu'en plein mois d'août, au moment où le Premier ministre bénéficie encore d'une cote de popularité, en tous les cas de confiance augmentée, eh bien, il y a eu tant de gens à s'abstraire en quelque sorte des délices finissant des vacances pour venir entendre parler sérieusement de politique. Et je crois que cette permanence de la fidélité des auditeurs et des amis du Front National, je pense, est considérée comme une donnée très positive dans la politique française. Alors, bien sûr, le discours que je prononce à la Trinité pour des raisons qui sont, je dirais, philosophiques et morales, a toujours une teneur assez éloignée de celle du débat politicien. Parce que je fais tous les mois d'août cette réunion publique en hommage à la population de mon petit pays d'origine, à mes compatriotes, à ceux qui m'ont connu enfant, adolescent, jeune homme, adulte, et aussi à ceux qui sont fidèles à cette station maritime et balnéaire. Et je traite un sujet qui est généralement un sujet éloigné de la politique conjoncturelle. J'avais l'intention cette année de parler d'un sujet bien oublié des gens qui nous dirigent, la défense nationale, mais la récente tempête monétaire m'a conduite à relativiser mon propos et à l'actualiser en quelque sorte. Et j'ai donc parlé des problèmes économiques et sociaux qui vont évidemment se révéler avec une acuité particulière dès la rentrée, et quel que soit l'optimisme affiché officiellement par Monsieur le Premier ministre.
Alors justement, Jean-Marie Le Pen, je voudrais pas vous demander de jouer les pitonifs, je sais que vous détestez ça, mais à l'heure actuelle, le grand débat qui se produit dans la population, quand on parle autour de soi avec des amis, avec des voisins, etc., tous les gens, cette population, se divise en deux parties. Il y a ceux qui disent, c'est pas possible que cette crise économique, cette crise humaine, cette crise sociale, se perpétue sans arriver à une explosion.
probablement à la rentrée ou au début de l'automne, et, ou dans le courant de l'automne, et d'autres qui disent au contraire, non, les Français sont totalement castrés en quelque sorte, à la fois par l'angoisse du chômage, l'angoisse de la crise et des lois qui sont de plus en plus totalitaires, et ils ne réagiront pas. Quel est votre choix ?
Je ne voudrais pas faire de prévision de calendrier, c'est presque impossible à faire. Mais je suis convaincu qu'il arrivera un moment où, dans la profondeur de la crise, le gouvernement n'aura plus de solution à proposer. Et là, il est évident que où il devra passer la main, où il risque d'y avoir une explosion ou des séries d'explosions.
Alors, on va pas revenir sur...
Je ne peux pas croire qu'un grand peuple comme le nôtre puisse se laisser en quelque sorte conduire à la tombe sans réagir ou sans se défendre. C'est d'ailleurs le fondement de l'action du Front National. Nous voulons l'aile marchande du grand rassemblement national qui doit se présenter comme une alternative aux gouvernements actuels, n'est-ce pas, aussi bien socialistes que libéraux, parce que nous pensons que nos analyses et nos propositions sont les seules qui sont de nature à apporter des solutions au drame français, qui se caractérise d'abord, il faut le dire, par une crise sociale, un chômage qui atteint des profondeurs vertigineuses et qui provoque des conséquences quelquefois irrémédiables.
Jean-Marie Le Pen, comment expliquez-vous le fait que, au sein de malgré cette crise, malgré la crise économique, la crise sociale, la crise de l'emploi, le Premier ministre, qui est en poste maintenant depuis plus de 5 mois, bénéficie encore d'une cote de popularité qui est de près de 70%.
Eh bien, je crois que le Premier ministre est un homme rassurant. Et il a à cela certains titres, il faut le dire. Et ce n'est pas sa personnalité que, personnellement, je mettrais en cause. Mais malheureusement, la politique ne se contente pas de bonnes intentions. Il y a dans les responsabilités politiques une obligation de résultat. Et je suis convaincu que le gouvernement français n'obtiendra pas les résultats décisifs et qui constitueraient une amorce de redressement. Et je crois qu'il ne le fera pas parce qu'il est inhibé littéralement par le terrorisme intellectuel qui règne. J'en prends une preuve dans la dernière, l'immédiate, récente déclaration de M. Balladur. M. Balladur a dit, en ce qui touchait les problèmes qui touchent aux lois sur l'immigration, que d'abord et avant tout, il respecterait les droits de l'homme. Or, M. Balladur n'est pas là pour défendre les droits de l'homme, il est là pour défendre les droits de la France. C'est sa mission fondamentale, fonctionnelle, c'est son devoir d'État. S'il, par penchant naturel, il est partisan de se consacrer aux droits de l'homme, il faut qu'il postule il faut qu'il postule la fonction de secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou de directeur général de l'UNESCO ou peut-être d'une des grandes religions. Mais comme chef du gouvernement français, sa mission est d'abord d'assurer la survie, l'identité, la liberté, l'indépendance du peuple français.
Alors, toujours à propos d'Edouard Balladur, tout le monde se souvient qu'il vous a reçu très peu de temps après son arrivée à Matignon, ce qui a été considéré comme une marque de courtoisie politique.
Bah, il nous a reçus comme les autres partis.
Comme les autres partis, bien sûr.
Et compte tenu du fait que nous avions obtenu 3 200 000 électeurs.
Alors, au cours de cet entretien, le problème de la proportionnelle, si j'en crois National Hebdo, a été évoqué d'une façon très précise.
Tout à fait. Nous avons abordé deux problèmes touchant aux modes électoraux. Le premier, c'était celui de l'élection européenne. dans ce domaine, il y avait une certaine ambiguïté qui régnait dans l'opinion gouvernementale. Cette ambiguïté a été levée par le Premier ministre et nous conserverons la proportionnelle pour les élections européennes. Mais en revanche, comme vous le savez, c'est le mode majoritaire qui a été employé et qui nous a totalement privés de toute représentation. Et évidemment, j'ai exposé à M. le Premier ministre que pour des raisons de justice, de démocratie et de bon fonctionnement des institutions, nous souhaitions qu'il soit procédé à une réforme électorale. Le Premier ministre m'a répondu qu'il y pensait et que ceci aurait lieu après les élections présidentielles. Je lui ai indiqué de la manière la plus claire et la plus ferme que les électeurs du Front National exigeaient que, conformément d'ailleurs à la déontologie démocratique telle qu'exposée par les partis de la majorité actuelle, il fallait que cette réforme ait lieu avant les élections présidentielles et que nous ne nous contenterions pas de promesses électorales, que nous n'avions pas confiance dans ce que pouvait faire un quelconque président de la République, et nous exigions donc que ce débat soit réglé avant les élections présidentielles. Voilà quelle a été la demande que nous avons exprimée, et j'ai dit, sans même parler de mot d'ordre, j'ai dit que je pensais que les électeurs du Front National, on ne pourrait pas compter sur les électeurs du Front National si on n'avait pas procédé à cette réforme électorale fondamentale préalablement.
Alors Jean-Marie Le Pen, je ne vais pas vous demander de parler de l'actualité parce que, bon, d'abord, je sais que vous êtes dans l'inconfort de votre... dans le confort de la voiture, mais c'est pas très confortable
confort
de parler...
Relatif,
voilà. Et ce que je vous propose, comme je vous l'ai déjà proposé hors antenne, c'est de venir le premier mercredi où vous serez libre pour faire un tour de l'actualité.
Ce sera avec grand plaisir.
Mais quand même deux choses qui sont deux événements qui sont l'un d'une actualité immédiate et l'autre d'une actualité très proche. C'est d'une part l'université du Front National, dont le thème est civilisation contre barbarie et qui se tient en ce moment au Palais des Congrès d'Arles, enfin qui va se tenir du 30 août au 3 septembre et vous prononcerez le discours de clôture, je crois. Et puis le deuxième événement, c'est les BBR qui se préparent pour les 22 et 23 septembre.
C'est
25. Enfin, pour la fin de septembre, on donnera les dates plus précisément.
Uh-huh.
Sous quel signe placez-vous, allez-vous placer vos deux déclarations à l'université d'été et au BBR, si ça n'est pas vous demander de déflorer le sujet trop tôt?
Écoutez, je crois que nous allons l'aborder sous l'angle des préoccupations les plus aiguës de l'opinion française. Et c'est certainement le problème social, le problème de l'emploi, dans ses causes, les causes du chômage, et les remèdes que nous proposons. Je ne vais pas évidemment faire un exposé ce soir à votre radio et dans les conditions que vous avez décrites, mais nous pensons que le gouvernement se trompe sur les causes, et c'est pour cela que nous pronostiquons son échec. Les véritables causes de la crise sociale actuelle sont le grand problème de l'immigration et des charges financières qu'elle entraîne dans notre pays. L'autre, c'est celui du libre-échangisme, c'est-à-dire de la concurrence sauvage et injuste à laquelle sont opposées en quelque sorte nos industries et nos activités économiques. Et nous disons que sans réforme fondamentale dans ce domaine, sans règlement de ces problèmes, sans rétablissement des frontières, sans une réforme fiscale fondamentale, sans une réforme de l'éducation nationale, sans l'établissement du revenu maternel, qui aura pour conséquence de libérer des centaines de milliers d'emplois, il n'y a pas à espérer de solution du problème du chômage qui ne va cesser de s'aggraver jusqu'au point de rupture.
D'ailleurs, dans votre intervention à la Trinité, vous avez exprimé une image qui est tout à fait nouvelle pour définir les frontières. Ça, j'avais jamais entendu ça, je veux dire. Vous avez dit que ces frontières, qui étaient les frontières d'un nouveau protectionnisme destiné à protéger l'emploi et la vie sociale et la vie économique en France, ces frontières devraient être des membranes vivantes, en quelque sorte des filtres sélectifs, et non pas une ligne Maginot.
Oui, parce que les mondialistes et les adversaires, les ennemis de la nation, ont diabolisé la notion même, le concept de frontière, comme si les frontières étaient responsables des conflits, alors qu'elles sont les lignes qui établissent l'espace de règles. Or, dans l'espace français, défini par nos frontières, nous entendons être défendus d'une façon pragmatique et non dogmatique. Et nous disons, contrairement à aux griefs qui sont faits, que la frontière n'est pas une ligne Maginot, un mur de béton, mais doit être conçue comme une membrane vivante, en faisant une comparaison biologique, en quelque sorte, qui laisse passer ce qui est favorable et qui bloque ce qui est défavorable. C'est-à-dire que la frontière doit jouer le rôle d'un système de défense immunitaire et que l'absence de frontière préconisée par les partis politiques de notre établissement aboutit à un véritable sida économique. C'est que notre organisme vivant, notre organisme économique, se trouve dépourvu de toute défense immunitaire. Nous nous proposons de rétablir ces défenses immunitaires, mais ceci n'implique pas le ralliement n'implique pas le rejet de l'économie de marché, ni le rejet du commerce international, mais nous entendons que le commerce international serve les intérêts de la France et des Français, et non pas les ruines.
Jean-Marie Le Pen, je vous remercie. Je vais maintenant vous libérer. Vous allez pouvoir profiter du beau paysage que vous devez suivre au travers des vitres de votre voiture. J'espère que Saint-Christophe vous accompagne.
Merci.
À très bientôt.
Merci et salut et bonjour, plutôt bonsoir à tous les auditeurs de Radio Courtoisie.
Au revoir, Jean-Marie.
Et à vous, cher ami.
Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir.
Voilà. C'était notre petite surprise de rentrée, et vous avez vu, ça c'est du direct, où je ne m'y connais pas, alors vraiment, vous savez, l'autre jour j'écoutais sur une radio d'État, la retransmission d'une émission de Jean Noël, enfin la rediffusion d'une émission de Jean Noël, et Jean Noël, c'était en 47, donc vous rendez compte, 47, il y a 46 ans, et j'étais à peine né, et Jean Noël avait pour la première fois organisé un direct, une conversation en direct avec le Canada, parce que il était dans un petit village de Normandie qui avait été bombardé, et il remerciait les Canadiens qui avaient envoyé des aides aux victimes des bombardements de ce village. Et donc, pour la première fois, on a assisté à un direct radiophonique entre le Canada et la France. Et ce brave Jean Noël a été absolument... Philippe ? Un duplex, oui, c'est ça, un duplex. Et le brave Jean Noël était absolument éberlué. Il disait, c'est une grande date dans l'histoire de la radio, etc., etc. Et maintenant, on parle à quelqu'un qui est dans une automobile qui circule à 130 km/h, parce que je suis certain que le chauffeur de Jean-Marie Le Pen n'outrepasse pas, contrairement à certains chauffeurs de ministres. Il paraît qu'il y a même un ancien ministre qui, si on en croit les heures d'entrée et de sortie sur l'autoroute, devait rouler à 275 km/h entre Paris et Béthune. C'est quand même assez... Pour qu'on croit qu'il était à l'endroit où il dit qu'il était, à l'heure où il dit qu'il y est, etc. Il aurait fallu qu'il roule à peu près 300 à l'heure. Donc, vous voyez, alors Jean-Marie Le Pen, pas du tout, il roule à 130 km/h. Eh bien, on peut téléphoner à quelqu'un. C'est le progrès. Donc, vive le progrès. Nous sommes des réactionnaires de progrès. Voilà. Alors, puisque j'ai parlé de l'affaire, de ce ministre à propulsion rapide, de cet ex-ministre à propulsion rapide, je voudrais quand même dire un mot de cette histoire. Parce que, pour que l'histoire Tapie, l'histoire Mélique, tout ça, je ne connais pas le fond ni le fin mot. En plus, je suis devenu prudent. Je m'en remets à la décision des tribunaux et de la justice et du juge d'instruction. Voilà. Mais quand même, est-ce que vous croyez pas que pour savoir si réellement un témoin était à l'endroit où il dit qu'il était, au moment où il dit qu'il y était, il était bien utile d'envoyer, comme on l'a fait, deux policiers aux Antilles pour interroger sa chef de cabinet. Parce que, je m'excuse, mais enfin,
jusqu'à plus ample informé, je peux me tromper, je ne suis pas infaillible. Les Antilles, c'est en France, non? Il y a des policiers aux Antilles. Alors, est-ce que ça veut dire que les policiers des Antilles...
Vous pouvez faire un duplex aussi.
En plus, je peux téléphoner, mais enfin, est-ce que ça veut dire que les policiers des Antilles sont trop bêtes pour aller interroger une dame en villégiature dans leur province? Ou est-ce que ça veut dire qu'on voulait payer des vacances à des policiers français? Ou est-ce que ça veut dire qu'on voulait décidément à tout prix donner à cette affaire minable, ringarde, dans laquelle un ancien ministre... On peut pas dire c'est ridiculisé, parce que Dieu sait que le pauvre Mélic, il avait pas besoin de ça. Le gros de la tâche était déjà fait. Mais enfin, est-ce qu'on n'avait pas envie de donner à cette affaire un retentissement que, très franchement, elle ne mérite pas? Parce qu'il est évident, qu'il n'était pas nécessaire de dépenser l'argent du contribuable à payer des billets d'avion aller-retour et des séjours aux Antilles à deux policiers, d'ailleurs qui ont dû être avides de faire ce boulot. Moi aussi, ça me plairait, mais dans le journalisme, c'est assez rare. Pour en arriver à la conclusion que quelqu'un ne disait pas la vérité dans cette affaire. Ça me paraît plus que probable, en tout cas. Je comprends mal cette histoire de voyage. Je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi on a envoyé deux policiers, d'autant que, comme l'a expliqué l'autre soir le juge Gallo, l'idée que Mélic pourrait être inculpé pour faux témoignage est une idée fausse. Mélic, quoi qu'il ait dit, ne peut pas être inculpé pour faux témoignage parce que personne n'est tenu, même un ministre, de dire la vérité aux policiers ou aux juges d'instruction. Puisque tout simplement, il ne parle pas sous serment. Le seul moment où il est tenu de dire la vérité et où il risque d'être poursuivi pour faux témoignage, c'est quand il arrivera devant la cour, devant le tribunal, et que le tribunal lui dira « Monsieur Mélic, est-il exact que vous étiez dans le bureau de Monsieur Tapi entre 14h30 et 15h30 le 17 juillet, pas 10 juillet, juin, ou je sais plus quoi, d'ailleurs le 17 1993 ?» Alors, s'il répond oui et qu'on a la preuve que c'était non, et bien à ce moment-là, il sera poursuivi pour faux témoignage. Mais au juge d'instruction, il peut lui dire, s'il veut, « Oui, oui, absolument. D'ailleurs, nous étions en compagnie des Bluebell Girls du Lido que j'ai présenté à Bernard Tapie et qui lui ont fait une démonstration de French Cancan. » Et même si c'est à l'évidence un mensonge, le juge d'instruction n'y peut rien. On a parfaitement le droit, je le signale aux auditeurs qui seraient concernés, on a parfaitement le droit de mentir à un juge d'instruction. On n'a pas le droit de l'insulter. Mais on peut lui mentir, ouvertement, en lui disant « je vous mens, je vous raconte des cracks ». On peut même lui dire « je refuse de vous répondre, je m'expliquerai devant le tribunal ». C'est pas la meilleure solution pour pas être inculpé, c'est évident. Et même, lui, il a le droit de vous mettre en garde à vue, et il a le droit de vous inculper, mais pas là-dessus. Il peut pas vous inculper pour faux témoignage, il peut vous inculper pour injure, il peut vous inculper pour des tas de choses, mais pas pour faux témoignage, car ça n'existe pas. Voilà ce que je voulais dire sur cette affaire Tapie. Et puis, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'actualité. Parce que le reste de l'actualité, hein, qu'est-ce que vous voulez que je parle des femmes de prêtres, ça vous intéresse, ça? Ces espèces de...
Non.
Bon, alors voilà, parce que en plus je vais être grossier et désagréable. Mais que voulez-vous dire d'autre? Il ne se passe rien. Il ne se passe véritablement rien.
Vous pourriez nous parler de M. Badinter, peut-être?
Pourquoi je parlerais de M. Badinter?
Parce qu'il a fait des méchancetés.
Mais non, mais pas du tout. Monsieur Badinter n'a fait aucune méchanceté. Monsieur Badinter, qui dirige le Conseil constitutionnel, a fait décider par le Conseil constitutionnel, car maintenant il apparaît que c'est bien lui qui a pris la décision d'une façon quasi unilatérale et qu'il a imposé à ses sages de refuser des dispositions de la loi Pasqua. Mais je ne vois pas en quoi ça peut nous gêner, étant donné que depuis des mois, nous disons que la loi Pasqua est largement insuffisante et qu'elle n'est pas, elle ne correspond pas aux nécessités de l'immigration. Alors, c'est quand même extraordinaire, cette manie qu'on a chez nous, dans la droite nationale, de dire tout et le contraire de tout sur des sujets comme ça. On dit, cette loi est nulle. Je l'ai écrit moi-même, la loi Pasqua est nulle. C'est une loi tordue, c'est une loi vicieuse, et Pasqua joue le double jeu. Bon, alors, il se fait passer pour un dur de dur qui va régler le problème de l'immigration en faisant passer une loi qui est de nature à... qui n'est en rien de nature à régler le problème de l'immigration. Bien. Moyennant quoi, M. Badinter, qui est socialiste, arrive devant M. Pasqua et lui dit « Écoutez, votre loi, elle n'est pas encore assez socialiste. Alors on va la supprimer. » Et nous, on dit « Oh là là, mais c'est criminel, c'est très mal et tout. » Pas du tout, c'est très bien. Il a tout à fait raison, M. Badinter, d'empêcher cette loi de passer, puisqu'elle est idiote, cette loi. Elle ne tient pas debout, elle ne correspond pas aux nécessités. Donc qu'elle soit... complètement nul ou archi nul, complètement inapplicable ou archi inapplicable, ça ne change rien. Je dis que Badinter avait raison, voilà. Qu'il l'ait fait pour de mauvaises, qu'il ait raison pour de mauvaises raisons, c'est une autre paire de manches. Ce qu'il faut, c'est évidemment une loi qui soit parfaitement rigoureuse. Par exemple, il faut supprimer tout simplement, mais tout simplement, l'accession à la nationalité française par le biais du mariage. On va pas perdre notre temps pendant des années à s'interroger si, oui ou non, tel sujet étranger aime réellement la française qu'il veut épouser ou s'il veut l'épouser pour acquérir la nationalité française. On ne peut pas le savoir. C'est impossible. Vous avez des gens qui sont amoureux et qui ont l'air de se détester, et vous avez des gens qui ont l'air d'être parfaitement amoureux et qui en réalité se haïssent. Donc, les juges d'instruction ou les procureurs ou les maires ne sont pas chargés de tenir à jour la rubrique du courrier du cœur. Donc, quand un monsieur et une dame arrivent devant eux, ils disent « Vous voulez vous marier ? » Bon, ben, je vous marie, que vous vous aimiez ou pas, ça ne me regarde pas. D'abord, je voudrais quand même préciser une chose, c'est qu'il n'est pas obligatoire de s'aimer pour se marier. Il y a aussi ce qu'on appelait dans le temps des mariages de raison, des mariages de convenance, des mariages de famille, des mariages d'argent. Donc, on a parfaitement, légalement, le droit d'épouser quelqu'un qu'on n'aime pas. La seule solution, c'est de dire « Monsieur, vous êtes bantou. » Et vous allez épouser madame qui est française, eh bien vous allez rester bantou. Vous n'êtes pas du tout obligé de devenir français parce que vous épousez une française. Pas du tout, du tout. Il n'y a aucune nécessité. Si vous voulez devenir français, vous allez faire comme n'importe quel bantou. Vous allez déposer une demande de naturalisation. Et puis dans 5 ans, si vous vous êtes très bien conduit, si vous n'avez jamais été condamné, si vous avez servi le pays, si vous avez fait vos obligations de service militaire ou civil, quel que soit votre âge, si vous avez payé régulièrement vos impôts, si vous acceptez de prêter serment sur le drapeau et la Constitution, eh bien on vous dira, monsieur le bantou, dans la mesure où on a besoin de vous, dans la mesure où la France a envie de vous, ce qui n'est pas obligatoire, eh bien voilà, vous devenez français. Mais le fait que vous soyez marié ou pas n'a aucune importance. Et le fait que vous ayez des enfants qui seront français par le jus solis ne fait pas du tout de vous un français. Je ne vois pas la nécessité de transformer un bantou en français, souvent parce qu'il épouse une française et qu'il lui fait des enfants qui vont être français. Il y a des milliers de cas de gens qui n'ont pas la nationalité de leurs enfants. Et ça n'a rien de choquant. Ça n'a rien de choquant. Donc, cette histoire est mal embarquée, et je dis que le fait que Badinter lui casse les pattes, c'est pas mauvais du tout pour nous. C'est bon. C'est bon pour nous.
Moi, je vous parlais pas de la loi Pasqua, je vous parlais du pouvoir de Badinter. Vous trouvez pas qu'il est exorbitant ?
Enfin, c'est une aimable plaisanterie. De toute façon, je vais dire une chose très simple. N'étant pas démocrate, personnellement, et l'ayant dit à de nombreuses reprises, je ne peux quand même pas me formaliser du fait que la démocratie n'existe pas en France. Je devrais m'en réjouir. Mais je dois reconnaître quand même que on nous dit, vous êtes 30 millions d'électeurs. Vous allez élire 600 députés, et je ne sais pas combien, 500 sénateurs, je ne sais pas combien sont les sénateurs. Enfin, vous allez avoir donc 1000 représentants, directs ou indirects, parce que en plus, les sénateurs, ils ont une espèce de double légitimité, parce que ils ont été élus par des gens qui étaient déjà élus. Donc c'est les meilleurs, désignés par les meilleurs au sein des meilleurs. Les députés, encore, c'est n'importe quel clampin qui peut devenir député. Donc, pour devenir sénateur, il faut avoir un certain âge, il faut avoir une certaine expérience. Il faut être désigné par les meilleurs des meilleurs. Donc c'est une garantie. Alors quand vous mettez un député, un sénateur, vous avez en quelque sorte la crème de l'élite, ils portent en eux toute la légitimité démocratique. Chacun, chaque sénateur, enfin chaque député, s'ils sont 500, représente 100 000 personnes en quelque sorte. Ils représentent la nation, mais ils représentent un 500e de la puissance et de la volonté nationale. Bon, une fois qu'on a ces 1000 personnes qui représentent la totalité de la volonté nationale, on leur dit... Bon, écoutez, vous êtes vraiment trop con. On va en prendre 6 pour savoir ce qui est sage dans ce que vous dites. Parce que, vous voyez, ou 9, pardon, oui, 9. On va en prendre 9 qui ne viennent pas de chez vous, d'ailleurs. Ça peut être l'ami personnel du président de la République, Monsieur Badinter. Et puis, alors, on va prendre 3 que le président de la République va désigner. Et puis 3 que le président du Sénat va désigner. Et puis 3 que le président de l'Assemblée nationale va désigner. Qui seront élus d'ailleurs pour une durée, qui seront désignés pour une durée qui outrepasse largement le temps de puissance de ceux-là même qui les auront désignés. Autrement dit, le jour où Mitterrand va quitter l'Élysée, ses décisions et ses choix vont continuer à peser pendant encore des années sur la politique française, au jour le jour. C'est le contraire même du bon sens et de la démocratie. Mais encore une fois, alléluia, tout ce qui est contre la démocratie ne peut rendre que service à ce pays, parce que peut-être qu'un jour les Français vont s'apercevoir que depuis 2 siècles, on les emmène en promenade avec ce mensonge extraordinaire de la représentation nationale et de la démocratie, et ils vont dire, il y a peut-être un autre système. On en parlera, si vous voulez, dans la deuxième partie de l'émission, puisque je vois mon excellent camarade Daniel Amiche qui est là, et qui se prépare à animer cette partie de l'émission qui s'appellera « Les fous du roi ». Pour moi, la solution n'est pas dans la démocratie, elle est dans la monarchie et l'exercice serein et sage de la monarchie absolue, le roi étant dans ses conseils et dans ses provinces. Voilà tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Pour quelqu'un qui voulait pas en parler, j'ai quand même fait un quart d'heure, c'est pas mal.
Alléluia.
Mais il n'y a pas d'appel téléphonique, je crois qu'on ennuie là.
Non, il y a
ils sont
des pétrifiés,
vous croyez?
D'avoir demandé à Jean-Marie Le Pen de parler ainsi, qu'il revienne.
Ah bah voilà, ça, je suis surpris de cette réaction.
Ah, ça je me fais disputer moi. Victoria prononce interpeller comme une pomme, alors qu'elle devrait prononcer interpeller. Je ne suis pas sûre du tout qu'il faille prononcer interpeller.
Non.
Et je suis même certaine interpeller. Du contraire, parce que je viens de vérifier dans le dictionnaire.
Comme une pomme. Comme une pomme.
Comme une pomme.
C'est mignon.
Alors là, il y a tout de même une question
Vicky la pomme.
Pour Monsieur Dame que je vous donne. Et l'autre, ce sera pour plus tard.
D'accord, mais je poserai la question à Marc Dame, mais à la fin, parce que comme c'est une question désagréable, si on lui pose au début, il risque d'être déstabilisé et de s'en aller. Daniel Amiche, entrez donc dans le studio, mon bon. Mais écoutez,
non,
ne vous faites pas. J'ai grand plaisir à voir votre beau visage derrière la vitre, mais j'aurai encore plus de plaisir à voir votre beau corps autour de la table.
Mon Dieu.
Voilà. Alors, vous connaissez Marc Dem. Marc Dem est un écrivain, c'est un journaliste. Il est l'auteur d'une lettre confidentielle dont on parle parfois à ce micro, qui s'appelle Iota Ono, mais qu'on peut se procurer en écrivant en boîte postale 52-78-101 Saint-Germain-en-Laye-Sedex. Je sais ça absolument par cœur maintenant. Et il vient de publier un livre qui n'est pas le premier. D'abord, c'est pas le premier livre de Marc Dem. Il en a publié beaucoup et qui ont connu un franc succès. C'est un spécialiste des questions religieuses. Mais pas seulement. Alors je vais tout dire parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Il a publié chez Albin Michel Insolite Colombie. Parce qu'il a vécu longuement, je crois, hein, Marc, en Colombie.
J'ai vécu 3 ans en Colombie, oui.
Mourir pour Caobang. Mais vous n'êtes pas mort à Caobang. Autant que je sache.
Mais je ne suis jamais allé à Caobang.
Ah oui, c'est le meilleur moyen d'en parler. Il faut que, alors, les grands titres, les grands dèmes, on pourrait dire, il faut que Rome soit détruite, Dieu est successeur, Dieu persiste et signe. Et puis, il a publié en collaboration avec Cécilia Dem, qu'on va entendre tout à l'heure, puisqu'elle va nous parler de ses bouquets, L'Amérique du Sud à bâton rompu. Puis, aux éditions de la Table Ronde, Évêque français, qu'avez-vous fait du catéchisme? Aux éditions d'Ismas, un bouquin qui a été une espèce de bombe, il faut bien le dire, qui était Lettre à Monsieur Quelconque sur les enfants artificiels. Aux éditions Plomb, Don Gérard et l'aventure monastique. Aux éditions à la Société de production littéraire, la regrettée SPL, Le Prêtre. Aux éditions Perrin, Le Duc d'Anjou m'a dit. Je crois que vous avez entendu parler de ce livre, Daniel.
Oui, en effet.
Et aux éditions du Rocher, Fric Santé, le scandale, qui est le plus récent, je crois. Hein,
c'est le plus récent.
Et qui a fait aussi un petit peu de bruit. Il y avait quelques révélations là-dedans qui étaient de nature à bousculer pas mal le paysage médiatique et politique. Et alors là, le troisième secret de Fatima. Il s'en faut de beaucoup, c'est pas le premier livre qui paraît sur la question.
Non, il y a une littérature considérable, que je n'ai d'ailleurs pas lu en entier, mais enfin j'en ai lu beaucoup. Oui, Fatima, pourquoi un livre nouveau sur le troisième secret de Fatima? Parce que, d'abord, le troisième secret de Fatima n'est toujours pas publié, donc on ne sait toujours pas de quoi il est composé, quel est son contenu. Mais je prétends dire quel est ce contenu dans le livre en question. Alors, pourquoi Fatima? Je ne suis pas très apparition. Hein. On est apparition ou on n'est pas apparition. Moi, je ne le suis pas beaucoup.
Je crois qu'il faut dire, parce que la question va être posée, un auditeur va nous appeler pour nous le signaler, que les apparitions ne sont pas deux fois.
Elles ne sont pas deux fois. Alors, elles sont reconnues par l'Église ou non reconnues par l'Église. Fatima est reconnue par l'Église et moi, je trouve très intéressantes les apparitions de Fatima. Et surtout parce que elles sont un argument qui sert une apologétique, car contrairement à beaucoup d'autres apparitions, ou presque toutes, il y a eu un phénomène, le phénomène solaire, qui a été vu par 70 000 personnes. 70 000 personnes ont assisté à ce phénomène solaire. Il y a aussi d'autres...
Dont des journalistes totalement athées qui l'ont raconté ensuite.
Oui.
Je crois même qu'il y a un journaliste athée, socialiste, franc-maçon, enfin la totale, qui a voulu écrire ça dans son journal et qui a été chassé de son journal.
Oui, qui a eu toutes les misères possibles.
Parce qu'on voulait lui interdire d'écrire la vérité.
C'était le Oseculo, le grand journal maçonnique du Portugal. Bon, il y a d'autres choses. Moi, je me souviens... je ne sais pas, Serge, si vous étiez là, le 25 janvier 1938. Moi, j'étais très jeune.
Pas positivement. J'étais une lueur dans le regard de mon père, et encore une lueur bien pâle.
Eh bien, ce jour-là, moi, je me souviens très bien, étant enfant, qu'il y a eu cette fameuse aurore boréale. Dans le nord où je me trouvais, où j'habitais, tout le monde a pensé que ça annonçait la guerre. Or, nous ne savions pas encore que la Vierge avait annoncé cela.
Elle avait annoncé une grande lueur qui apparaîtra.
Quand vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne qu'il est prochain le châtiment du monde par la guerre, la famine et les persécutions contre le Saint-Père. Donc c'est bien la réalisation d'une des prophéties de Fatima. Mais alors, tout cela est assez convaincant, mais il y a autre chose qui me paraît encore... plus convaincant, d'une certaine façon, c'est les chiffres, les dates plutôt. Je ne suis pas non plus très porté sur la numérologie, mais
quoique, on peut bien s'amuser avec la numérologie. J'en ai donné un petit témoignage.
Avec le numéro ?
Avec la numérologie.
Oui.
Tout et le contraire de tout à la numérologie.
Oui. Et c'est ce que je lui reproche, justement.
C'est très rigolo.
C'est ce que je lui reproche. Mais ici, il y a des phénomènes, des coïncidences de dates qui sont extraordinaires sans tortiller les chiffres. Par exemple, vous savez que Fatima a eu lieu, les apparitions ont eu lieu en 1917. Or, les années 17 sont des années particulières. En 1517, Luther affiche ses thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg. En 1717, donc 200 ans plus tard, fondation de la franc-maçonnerie universelle. 1917, encore 200 ans plus tard, apparition de Fatima. Et ensuite, les apparitions ont lieu tous les jours 13, enfin pendant plusieurs mois, tous les jours 13. Et donc du 13 mai au 13 octobre. Or, le 13 mai 1960, vous avez une affaire assez étonnante. C'est l'année où devait être révélé le troisième secret. Il ne l'a pas été. Et l'évêque de Fatima... qui était vraiment ce monseigneur Venantio, donc qui était vraiment peiné de cette décision du Vatican, a pris l'initiative d'écrire à tous les évêques du monde en leur demandant d'organiser de grandes veillées de prière ce soir-là. Or c'était l'époque où Khrouchtchev était venu occuper aux Nations Unies la tribune de l'URSS.
Il tapait avec sa chaussure.
Il a tapé avec sa chaussure. Bien. Terrorisant tout le monde. Or, le soir en question, le soir où avaient lieu ses prières, quelqu'un s'approche à la fin de la séance et lui dit quelque chose à l'oreille. Il se lève et s'en va. Il retourne à Moscou. Pourquoi ?
On l'a su des années plus tard.
On l'a su des années plus tard. Il y avait l'arme secrète qu'il préparait. Et puis cette arme secrète venait d'exploser au mauvais moment. On a dit qu'il était allé à l'enterrement de l'amiral Nedelin. Mais pourquoi aller à l'enterrement de l'amiral Nedelin il n'y avait pas de raison spéciale pour qu'il se précipite de la sorte. Mais c'est que l'amiral Nedelin était une des victimes de cette explosion.
Oui, c'est une gigantesque explosion dans le nord de la Russie qui a provoqué la mort de plusieurs milliers de personnes pensant dont on a pu vérifier l'authenticité tout simplement en mesurant la radioactivité locale qui avait augmenté dans les sur les côtes de la Finlande, je crois, qui avait augmenté dans les proportions gigantesque.
Gigantesque. Oui. Alors, il y a d'autres dates, et nous en arrivons alors au cœur du problème. Qu'est-ce qu'il y a dans ce secret en question? Ça, on peut le révéler sans déflorer le livre. Mais c'est, d'ailleurs ce n'est pas, je ne suis pas le premier à l'avoir dit, il y a de nombreux spécialistes qui l'ont dit, le secret concerne le concile. Comment est-il rédigé? On ne sait pas, bien sûr, mais il est très court, et c'est un des signes des vraies révélations, des vraies apparitions, c'est leur concision. Quand c'est trop bavard, il faut se méfier, il faut faire attention. Mais là, il est très court, et il doit dire quelque chose comme ceci, que le pape ne décide pas de faire un concile, ce serait désastreux. Il y a quelque chose de ce genre. Bon, alors, quelle que soit la formulation, de nombreuses analyses convergent vers cette réalité et de nombreuses fuites, si vous voulez. De nombreuses fuites, même le cardinal Ratzinger qui dit avoir lu le secret, il dit que ce n'est pas un cataclysme. Hein. Ce n'est pas un cataclysme. Ça touche à la foi. Monseigneur Do Amaral, évêque de Fatima, pas de cataclysme non plus, mais ça concerne la foi. C'est quelque chose de plus grave encore. La perte de la foi dans le monde et dans l'Église, en fait.
Alors, à ce propos, Marc, je lisais récemment un livre paru il y a plusieurs années, dont l'auteur m'échappe, c'est un Italien. Il me semble que c'est un Italien ou un Espagnol qui a écrit ça, qui s'appelle « Les prophéties de Jean 23 ». Vous avez lu ce livre ?
Je l'ai feuilleté, mais je n'ai pas lu.
C'est un livre extrêmement étrange parce que l'auteur commence par expliquer longuement ses rapports avec la Rose-Croix et raconte que, un jour, on lui a donné lecture d'un texte qui était un texte de prophétie curieux, rédigé par comment s'appelait Jean XXIII, Roncalli.
Roncalli, oui.
Par Roncalli, alors qu'il était jeune homme et qu'il avait été initié à la Rose-Croix. Donc cet auteur, alors c'est peut-être complètement fantaisie, j'en sais rien, je signale l'existence de ce livre, qui s'appelle Les prophéties de Jean XXIII, qui a dû paraître une dizaine ou une quinzaine d'années. Cet auteur dit Jean XXIII était un grand initié de l'ordre de la Rose-Croix, et il a donc fait ses prophéties. Mais ça éclaire quand même d'une manière assez bizarre, assez troublante, le fait que ce pape n'est pas... hésitez, si votre hypothèse est bonne, parce que si votre hypothèse est bonne, si votre hypothèse est vérifiée, si vraiment la Sainte Vierge a demandé que un débat ne soit pas ouvert au sein de l'Église sur le fondement de la foi, ou qu'un concile ne soit pas mis en route pour changer la liturgie et pour changer le contenu même de notre foi, pour que le pape ait pris le contre-pied de la volonté de la Sainte Vierge, il a fallu qu'il soit tout simplement déterminé à détruire l'Église.
Peut-être, en ce qui concerne Jean 23, peut-être, mais on ne peut pas l'affirmer. Mais en tout cas, historiquement, ça s'est passé de la façon suivante. Jean 23 est élu pape. Ensuite, le 25 janvier de l'année suivante, 59, il annonce le concile, dont l'idée lui est venue, dit-il, comme une feuille tombe d'un arbre. Et c'est seulement en nous.
Phrase quand même.
Comment ?
C'est une curieuse phrase, oui, vous l'avouerez.
Il
aurait pu dire comme une colombe serait venue me poser sur ma tête, par
exemple,
comme le Saint-Esprit, ou. Non, une feuille tombe d'un arbre, c'est-à-dire c'est le type même de l'accident.
C'est ça.
Anhistorique.
Oui. Et alors, c'est seulement en nous qu'il prend connaissance du secret, à que c'est le Gandolfo. Donc il se le fait apporter. Et alors là, il y a très peu de témoins. Mais ces témoins ne sont pas tout à fait d'accord sur la façon dont ça s'est passé. Mais peu importe, si on fait bien l'analyse des choses, on s'aperçoit que Jean 23 a ouvert le secret, l'a lu. Selon certains, il a pleuré. Une fois cela fait, il l'a remis avec un petit texte qu'il a dicté. Et il l'a recacheté en disant « Cela concerne mon successeur ». Alors imaginez que la Vierge ait dit « Ne faites pas de concile ». Or il vient quelques mois de distance, il vient justement de l'annoncer. Et il en est extrêmement fier. Et il se dit, ce concile, enfin, prêtons-lui toujours les meilleures intentions, il se dit, ce concile, ça va être extraordinaire, parce que j'ai nommé des commissions préparatoires, il y a des gens très bien là-dedans, donc ça va être un bon coup de balai dans l'Église, enfin, un dépoussiérage, mais, et puis tout à coup, il voit que la Vierge n'en veut pas. Alors, qu'est-ce qu'il se dit, psychologiquement? Il dit, ce concile est bon, or la Vierge n'en veut pas. Donc, c'est les conséquences du concile qui vont être mauvaises. Alors, comme j'ai déjà 78 ans, bah, d'ici là, je serai mort, et c'est...
Il ça laisse, me concerne
il,
pas.
Il renvoie le bébé à son successeur. Mais alors, une chose, en tout cas extraordinaire, et qu'on n'a pas assez souligné, c'est que, vous vous souvenez, le concile, comment ça s'est passé, hein? On ouvre le concile, et à la première session publique, il y a les quatre cardinaux qui font le coup de Trafalgar, hein, et qui vont mettre le concile sur une autre voie tout à fait, une voie révolutionnaire. C'est entre autres le cardinal Liénard, le cardinal Alfrinks, et puis un autre français, le Tisserand. Bon. Or, cette affaire qui a vraiment marqué le monde, parce que j'ai encore les journaux de l'époque, ça a été un coup, vraiment ce qu'on peut appeler un coup de Trafalgar. Hein. Les journaux titraient dans le monde entier, les évêques se révoltent, les évêques sont en rébellion contre le pape. Eh bien, ça se passait le 13 octobre 1917. Donc le jour anniversaire du prodige solaire. Et une autre date révélatrice, car Jean-Paul II arrive sur ces entrefaites par la suite, et il est très concerné par le concile, hein, par Fatima Julia. Bon, alors il arrive, il a été sacré évêque le jour des apparitions, le 13 mai. Alors, il a un attachement pour Fatima qui était indéniable. Donc Jean-Paul II arrive, il reprend le concile. Il se charge de ce que j'appelle le fardeau de l'homme en blanc, c'est la charge du concile, qu'il est obligé, il s'est engagé certainement, à le promouvoir et à le faire appliquer.
Enfin, c'est quand même... il est obligé par quoi? Puisque lui, oui. Alors il a le recul nécessaire pour vérifier que les fruits sont blés.
Oui, oui. Alors là, si vous voulez, c'est un débat extrêmement compliqué. Hein. C'est un problème extrêmement compliqué. Qui est Jean-Paul II. Et ce qu'il voulait faire, et pourquoi a-t-il fait cela, et pourquoi n'a-t-il pas fait autre chose? C'est extrêmement curieux, mais la Vierge ne lui a-t-elle pas envoyé un coup de semonce? Le jour de l'attentat, c'était, comme vous le savez, oui. Le 13 mai. Et à quelle heure? À quelle heure? À 17h 19. Renversé. Oui, ça fait 1917. Et là, on ne peut pas dire que ce soit de la numérologie. J'ai aussi été revoir les journaux de l'époque pour être sûr du coup. Eh bien, tous les journaux ont commencé de la même façon. Tous les articles de ce genre commencent toujours de la même façon. Telle heure, tel jour. Bon. Alors là, partout, vous voyez, 17h19, deux coups de feu éclatent sur la place Saint-Pierre. Donc, il y a là quand même un clin d'œil, plus qu'un clin d'œil. Hein.
Au moins, alors, c'est troublant.
Oui, c'est troublant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que, sans vouloir tout comprendre, ça je me refuse à chercher à tout comprendre, surtout les choses qui ne sont pas directement compréhensibles, mais il y a des faits, plus que des coïncidences, qui troublent énormément. Alors, les papes qui se renvoient le bébé de l'un à l'autre, lorsque, vous savez que le fameux secret que Lucie avait écrit sur l'ordre de son évêque et sur l'ordre de son confesseur, de son directeur de conscience, n'était pas destiné au pape. Elle ne l'avait pas écrit pour le pape et la Sainte Vierge ne lui avait pas dit de l'écrire pour l'envoyer au pape. Elle lui avait dit de le remettre à son évêque. Lequel, ne vous gênant pas d'histoire, s'est empressé de mettre ça dans un meuble, dans un tiroir, et de ne plus y penser. Enfin, mais il y pensait quand même, parce que ça l'embêtait énormément. Il aurait bien voulu être débarrassé de ce secret qui était là, Et son successeur, qui était alors son secrétaire, lui a regardé à travers les... par transparence, c'est lui qui a donné la forme, qui a indiqué la forme physique, matérielle du papier qui était à l'intérieur. C'est un papier d'écolier, une simple feuille, pliée, donc, comme je disais, qui est extrêmement concis. Mais alors, ce brave évêque de l'époque, il faut voir sa photo, c'est vraiment le bon évêque, mais l'évêque qui se dit... Pourquoi c'est tombé sur moi? Pourquoi est-ce tombé sur moi, cette histoire-là? Et qui essaie donc de s'en débarrasser, il le propose au patriarche de Lisbonne de le lui remettre. Et le patriarche de Lisbonne, il dit non, je n'en veux pas. Alors il est là avec son secret, qui le terrorise. Et à ce moment-là, de Rome, on s'avise que le secret qui est depuis, je ne sais plus, 17 ans, je crois, dans ce tiroir, on s'avise de son existence. Et on envoie du monde pour prendre le secret. Pour le porter à Rome. L'évêque, trop content, laisse faire. Alors pourquoi, tout à coup, au Vatican, s'est aperçu, sur la fin de la vie de Pie XII, qu'il y avait un secret et que ce secret était... considérable.
Pas bon, Pie
XII. Si, de Pie XII. C'était sous Pie XII.
Ah oui, c'est lui, pardon. Oui.
Alors ça arrive, et Pie XII, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est le premier des papes qui n'a pas voulu le lire. Qu'il l'a eu, mais qui ne l'a pas lu. Et il l'a mis dans son bureau, dans un petit meuble, sur lequel était écrit « Secretum Sancti Officii ». Et c'est là qu'a reposé jusqu'à son successeur, c'est là qu'a reposé l'enveloppe qu'il n'a pas voulu décacheter. En se disant, alors ce qui est, on peut comprendre Pie XII, la Sainte Vierge avait dit que ce secret devait être ouvert au moins en 1960. Or, on n'était pas encore en 1960 et Pie XII mourra en 1958. Oui, alors tout cela...
Pardon, Marc, de vous couper, mais je vais peut-être un peu vite en besogne, mais il y a quelques années, donc, on nous a expliqué que la consécration... Parce que ça, c'est pas le troisième secret, c'est le premier, qui demande la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie, et on nous a dit, c'est fait... Le pape l'a fait à sa manière, il a consacré le monde, enfin bon, il s'est arrangé. Beaucoup de gens ont dit, mais c'est pas vrai, ça, en réalité, ça n'est pas conforme à ce qui avait été demandé par la Sainte Vierge. Et il y a le fameux débat, enfin, la fameuse querelle autour du témoignage de sœur Lucie. Oui. Est-ce qu'elle a confirmé que la consécration avait eu lieu, ou est-ce qu'elle n'a rien confirmé? Alors, quelle est votre position?
Écoutez, sœur Lucie, on lui fait jouer très longtemps un rôle qui, la malheureuse, ne lui convient pas et ne lui plaît pas. Chaque fois, on va voir sœur Lucie pour lui poser, d'abord pour qu'elle explique les messages, etc. Et puis qu'elle explique si c'est bien ça qui se produit maintenant. Mais elle n'en sait rien, la malheureuse. Elle a transmis le message. Ce n'est pas une prophétesse, ce n'est pas un docteur de l'Église. Sœur Lucie aurait voulu rester en dehors de tout cela. Elle a eu des apparitions par la suite, elle en a fait état auprès de son directeur de conscience, mais c'est tout. Alors, on veut lui faire dire des choses. Et là, sœur Lucie, on lui a fait dire, parce que tout le monde allait faire son petit pèlerinage auprès de sœur Lucie. Moi, on m'a dit, combien de fois vous faites un livre sur Fatima, allez donc vers sœur Lucie. Et j'ai dit, non, je n'irai pas voir sœur Lucie, parce qu'elle a déjà vu 50 000 personnes, et que ce qu'elle n'a pas dit, elle ne va pas me le dire, et ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas qu'elle me dise quelque chose de nouveau, parce qu'elle fera un effort, et puis peut-être qu'elle ne me recevra pas du tout, d'ailleurs. Mais, donc, voyez-vous, alors, sœur Lucie, on lui a demandé, est-ce qu'à votre avis, la consécration de la Russie, parce que c'est de ça qu'il s'agit, par le pape, a été faite dans les règles que la Vierge l'a demandé? Bon. Et sœur Lucie a toujours dit non. Jusqu'au jour... où brusquement elle a dit oui, ce qui était quand même assez bizarre. Et on lui a fait faire une lettre. Alors, cette lettre, on dit que c'est un faux, je n'en sais rien, mais on lui a fait faire une lettre, en tout cas, dans ce, le mot Russie n'apparaît pas dans la lettre, ce qui est aussi étonnant.
C'est compliqué.
Oui. Alors, c'est un autre mystère qui se greffe sur Fatima, c'est bien cette impossibilité du pape à prononcer le nom de Russie. Et il devait, la Vierge disait, consacrer la Russie. Mais il faut bien dire, je vous consacre la Russie. Impossible de le dire. Il a un bœuf sur la langue, il n'y arrive pas. Bon, alors on pouvait penser que à certains moments historiques, ça aurait pu créer des incidents diplomatiques. Quoi qu'on peut quand même faire crédit à la Vierge, qui, pour régler ces questions.
Oui, je pense pas que. Je pense qu'elle a dû y penser.
Elle a dû y penser. Oui. Bon, mais après, depuis.
Ouais.
Depuis. Mais non, la Russie, ça ne peut pas se dire.
Ben, pour aujourd'hui, pour des raisons qui sont du même ordre que légèrement différentes, mais enfin du même ordre que ce qu'elles étaient il y a 10 ans. C'est-à-dire que il y a 10 ans, ça aurait été un camouflet à la face du Kremlin, et aujourd'hui, c'est un camouflet à la face du patriarcat.
Oui,
qui dirait,
oui.
Mais de quoi je me mêle si quelqu'un doit consacrer la Russie,
c'est moi le patriarche.
Le patriarche, oui. c'est pas le pape de l'Église schismatique de Rome.
Oui.
C'est ça le problème, oui. En fait. Et Rome est engagée dans une négociation tellement dure avec les orthodoxes, c'est tellement, quand je dis tellement dure, c'est pas une façon de parler, c'est presque sanglante. Que probablement le pape n'a pas envie d'ajouter du sel sur les plaies en faisant, enfin, c'est probablement l'argument auquel il se réfère. Moi, je ne vois pas d'autre explication. Ouais. Effectivement, maintenant que le régime soviétique a perdu son apparence ancienne, j'ai entendu qu'il s'est effondré, ça me fait toujours rigoler, étant donné que les cadres sont toujours les mêmes. Et comme l'expliquait l'autre jour Vladimir Volkov à l'université d'été de Renaissance catholique, après 70 ans de pouvoir soviétique, les seules élites du pays, les seules qui ont pu faire des études, les seules qui ont pu apprendre quelque chose, passer des diplômes, et appliquer l'expérience acquise dans les universités au monde du travail, en quelque sorte, c'est les communistes.
Ouais.
Et il nous racontait qu'il avait rencontré la conservatrice en chef de la bibliothèque de Saint-Pétersbourg, qui est la deuxième plus grande bibliothèque du monde, immédiatement après la bibliothèque de Moscou. Et cette femme lui a montré sa carte du parti, en disant, moi, je ne suis pas plus communiste que vous, mais j'ai ma carte du Parti communiste, parce que pendant des années, dans ce pays, c'était une obligation absolue pour qui voulait tout simplement accéder à un poste un peu au-dessus du balayeur des rues. Donc j'ai pris ma carte du parti, et maintenant, étant donné l'ambiance générale, je trouve qu'il y aurait une certaine laideur à la déchirer. C'est assez élégant, on peut dire. C'est une femme quand même qui mérite.
Vous savez, vous parliez des orthodoxes, hein, et pensant que le pape est lié par cette question. Mais il y a une chose qu'on m'a fait remarquer dernièrement, et je ne m'en étais pas avisé, et j'ai l'impression, n'en l'ayant jamais entendu, que presque personne ne s'en est avisé. C'est que le concile, les textes du concile contiennent une hérésie. C'est dans Ad Gentes, dans le second paragraphe. Et cette hérésie, c'est la suivante. Le concile dit, le Saint-Esprit procède du Père par le Fils.
Ah.
C'est dans le concile.
C'est
alors on nous dira encore que le concile n'a rien changé et est un concile tout à fait...
Affilio, alors.
Comment?
Affilio, par le Fils.
Par le Fils.
Et non pas filio
quoi. Perfilium, oui.
Perfilium.
Oui, c'est ça. Oui.
Pas et du Fils.
Voilà,
c'est tout ça, le problème.
Oui. Et oui, mais oui.
C'est tout le problème pour
Philippe. Pourquoi le concile a-t-il fait cela?
Ça n'a jamais été. Vous êtes certain?
Mais
ça?
Oui, absolument. J'ai les actes du concile. J'ai été vérifié tout de suite.
Hein.
Pourquoi le concile a-t-il fait cela? Voilà. Comme ça, c'est dans l'introduction, c'est le paragraphe 2. Personne ne lit l'introduction. Bon. Alors, le jour venu, on dira, mais c'est l'Église qui dit ça. Mais la preuve, et on vous montre. Alors, ça, c'est en vue de l'œcuménisme. Non, c'est des pièges qui sont déposés, il y en a d'autres. Mais ça, ça m'a paru tellement gros, le fait que ce soit que le concile soit hérétique.
Ça, c'est renversant. Hein.
Donc, non. La Vierge avait bien raison de se méfier de ce concile.
Alors, quelques appels d'auditeurs. Il y a un témoignage quand même qui était tout à fait frappant. C'est une auditrice qui nous dit, à propos de l'aurore boréale que vous évoquiez au début de cet entretien, Elle dit, j'habitais à Senlis, et ce jour-là, vers 22-23 heures, j'ai vu la lueur dans le ciel qui était rouge. Ma petite sœur disait, le petit Jésus va brûler. C'était impressionnant.
Oui, oui. Oui, vous voyez, les témoins existent encore.
Alors, ah bah oui, bien sûr, c'est pas si vieux que ça.
C'est pas si vieux que ça, en plus.
Alors, je continue. Il faut que, un auditeur dit, il faut que Rome soit détruite de Marc Dème chez Albin Michel n'a pas été cité. Si, je crois que je l'ai cité. J'ai dit trois grands Dème, enfin les trois grands, les autres sont pas petits, mais les trois livres clés de votre œuvre, mon cher Marc, c'est il faut que Rome soit détruite, Dieu est successeur et Dieu persistait. Qui sont parus chez Albin Michel. Là, une petite note qui est quand même, je suis obligé de dire, amusante, parce que vraiment, ça montre le sérieux du travail de la presse. Pour illustrer un article sur la délégation des femmes de prêtres au Vatican, je voulais pas en parler tout à l'heure, il y a des bonnes femmes qui se sont présentées au Vatican en disant on est mariés avec des prêtres et notre situation est assez difficile. Ça, j'imagine, effectivement, mais enfin, elles savaient qu'elles épousaient un prêtre. Je ne pensais pas épouser un tourneur sur métaux quand elles se sont mariées. Quoique, c'est vrai ce que dit Philippe, quoique. Donc, pour illustrer l'article sur la délégation de femmes de prêtres au Vatican, François du 23 août a choisi la photographie d'une ordination à icône par Mgr Lefebvre.
Oui, c'est assez étonnant.
Si c'est fait exprès, c'est tellement misérable. Mais je pense pas que ce soit exprès. Je pense
mais vous savez, de l'incompétence. On voit très souvent des photos des prêtres de la fraternité, parce que sur une photo, il faut montrer des prêtres. Mais si vous les montrez en civil, évidemment, ça ne va pas. Donc, on va les chercher où ils sont habillés.
Et alors, un auditeur qui s'appelle Philippe nous dit « La Vierge aurait dit que Rome perdra la foi, les nations également, mais seul le Portugal la gardera. »
Ce n'est pas tout à fait ça. Elle a dit, et c'est à la fin de la deuxième partie du secret, enfin il y a trois parties, donc à la fin de la deuxième partie s'arrête par ces mots qu'a écrit Lucie, et un petit peu après d'ailleurs, quand on l'a sommé de tout écrire, elle a dit, au Portugal se conservera le dogme de la foi, virgule, etc. Ça se termine par etc. Donc, c'est ça qu'elle a dit. Bon, c'est exact. Elle n'a pas dit, si vous voulez, toute cette phrase qui vient d'être citée.
Alors, c'est bien que vous n'avez pas parlé de Paul VI, qui a quand même régné de 63 à 78.
Oui, eh bien, écoutez, Paul VI arrive en plein concile. C'est l'effervescence, tout le monde est heureux, ça va changer le monde, ça va changer l'Église. Bon, et puis, il ouvre à son tour le secret. Qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas dire on arrête tout. Il ne le fait pas. Il pourrait le dire, bien sûr. Mais il continue. Et c'est à cette occasion que le cardinal Ottaviani l'a lu. Donc il le lui a fait lire. Et le cardinal Ottaviani, plus tard, en 1960, aura l'ordre, d'ailleurs c'est un peu plus tard que 1960, après 1960, l'ordre d'expliquer que le troisième secret ne concerne pas ce qu'on croirait, etc. Enfin, on lui a fait jouer un très vilain rôle que j'explique là, alors que c'était pas l'homme à qui il fallait faire ça, mais c'est cousu de fil blanc, son affaire, son explication, sa conférence de presse, et cousu de fil blanc, pleine d'incohérences. Et c'est une preuve de ce qui est avancé là.
Alors, comment expliquez-vous, Marc, que sur un dossier aussi capital, enfin aussi brûlant, surtout aussi médiatique, parce que des articles sur le troisième secret de Fatima et des livres sur le troisième secret de Fatima, il y en a eu des milliers, on peut dire. Il y a eu des livres très très importants, oui, comme le très gros travail qui a été fait par Frère Michel de la Sainte Trinité,
oui.
De Saint-Père-les-Vaudes.
Saint-Père-les-Vaudes, oui.
Qui a fait quand même, je ne sais pas combien, au moins 2000 pages là-dessus.
Ah oui, ça,
trois volumes
énormes.
Pratiquement
surtout exhaustif. Deux qui sont très gros. Ouais. Oui, oui, ça fait, il y a 2500 pages, je crois, en tout.
Mais comment ils... Bon, puis alors, il y a eu bien d'autres livres, puis des articles, je le répète, des émissions de télévision, des entretiens radiophoniques, etc. Or, Il semblerait qu'il y ait, que la division entre les intervenants soit parfaitement stricte. D'un côté, il y a des laïcs ou des prêtres qui manifestent une curiosité, une impatience, une volonté de savoir, etc. Et de l'autre, toute la haute hiérarchie de l'Église qui garde un silence absolu, qui chaque fois qu'on lui en parle dit oh, c'est pas très intéressant, oui, c'est oui. pas grave, là, bon, la Sainte Vierge est descendue pour nous parler, mais enfin on va pas en faire un fromage. À quoi ça correspond, eh bien, cette écoutez, espèce de solidarité, oui. On pourrait presque dire d'omerta.
Oui, 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 il y a de cela. Et alors, il y a un fait que j'ai relevé, qui est le suivant. En 1992, donc l'an dernier, c'était le 75e anniversaire donc des apparitions de Fatima. Eh bien, je n'en ai pas entendu parler en France. Je n'ai pas entendu parler de ce 75e anniversaire. Alors ensuite, en écrivant mon livre, je me suis dit, mais quand même, c'est pas possible, la croix en a parlé, tout au moins en trois lignes, et la documentation catholique. Bon. J'ai refait toute la collection de la croix jusqu'à la date, jusqu'au mois de mai, et après... La croix n'a pas dit un seul mot, même pour dire qu'il y aurait une grande festivité pour ce 75e anniversaire à Fatima. La documentation catholique qui publie tout chaque fois qu'un évêque ou inaugure un... je ne dis pas bon, comme...
Oui, disons, des chrysanthèmes. Mais...
dans un pays d'Afrique ou que sais-je. Bon, elle publie... La documentation publie in extenso son discours. Bon. La documentation catholique, absolument muette. Or, il y avait sur place, ayant prononcé de grands discours, le cardinal Sodano, qui n'est quand même pas n'importe qui, puisque c'est le numéro 2 de l'Église, et le cardinal Cassaroli, son prédécesseur. Donc il y a eu, avec des centaines de milliers d'assistants, il y a eu une célébration énorme, et... En France, on n'a pas voulu le savoir. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien parce que, voyez-vous, le Fatima, c'est contre, ça va contre le mouvement qu'a pris l'Église. Et ils le sentent bien, ils le comprennent bien. Il y en a qui se sont exprimés là-dessus autrefois. Maintenant, ils ne le disent plus, mais ils le rejettent. Ils le rejettent, on ne veut pas le savoir. Enfin, ça n'a pas d'importance. Vous n'avez qu'à faire avec ce que vous avez, vous n'avez pas besoin de savoir davantage, etc. Et ça ne va pas parce que Fatima, c'est trinitaire. Il y a la Sainte Trinité, avec l'apparition de l'ange de Fatima qui a précédé les apparitions mariales. C'est trinitaire, extrêmement trinitaire. Et l'ange l'est fait. Alors on n'aime plus la Trinité, on ne veut plus... trop en parler à cause des musulmans. De même que l'ange leur a fait participer à une messe, c'est absolument une messe. L'ange les a communiés avec un calice et une hostie qui ont été consacrés par qui ? Mais par notre Seigneur. Donc c'est une théophanie extraordinaire, une messe qui est en même temps au ciel et sur la terre. Bon, ça on n'aime plus, surtout que c'est pas la messe nouvelle, bon, etc. Fatima, c'est l'enfer qui est rappelé, la vision de l'enfer qui a été donnée aux enfants. Il n'y a plus d'enfer. Donc tout, voyez-vous, tout Fatima est contre. C'est pour ça, c'est ce qui authentifie encore l'hypothèse que la Sainte Vierge n'est pas conciliaire. Donc Fatima est le contraire de tout du chemin qu'a pris l'Église. D'où il ne faut pas s'étonner que l'on ne veuille pas en entendre parler. Donc on concède à la religion populaire, surtout s'il s'agit là-bas de peuples sauvages en Portugal ou en Espagne, bon, ça va, mais c'est tout. Hein. Et on ne veut pas l'introduire en France. Vous savez que quand la Vierge est allée dans la route mondiale en 1947, et qu'elle drainait mais des millions de personnes dans tous les pays visités, y compris en Amérique, ça a duré des années. Eh bien, lorsqu'on a voulu la faire entrer en France pour aller en Italie, donc elle devait suivre la Croix, le grand journal catholique, a dit que c'était pas convenable, il n'y avait qu'à lui faire prendre le bateau pour qu'elle ne traverse pas le territoire français. La Vierge était donc interdite de séjour.
Bannie du royaume.
Oui, oui. Elle ne pouvait royaume. Même pas être considérée comme immigrée.
C'est vraiment
et
des,
même temporaire.
Des démons, oui, oui. Démoniaques.
Et alors, elle n'a pu traverser la frontière à un moment donné que grâce à l'idée d'un commandant de douane qui a dit bon ben écoutez puisque c'est comme ça il faut absolument qu'elle passe. Bon, il y avait des évêques et tout ça, ça allait faire un scandale. Il est parti, il est allé au bureau, il est revenu avec un ticket de dédouanement temporaire qu'on a collé sur la Vierge, qui est passé comme un paquet sans valeur déclarée. Donc voyez-vous, la France a toujours été le clergé français a toujours été absolument hostile à Fatima, et depuis la guerre. Surtout, en plus, et autre chose, c'est qu'elle vient d'un pays, du pays de Salazar.
Oui, en plus. Ah. Oui. Alors, encore un témoignage sur la lueur. Au sujet de la lueur rouge, nous dit une auditrice, je l'ai vue, j'étais dans l'Isère. Dans le rouge du ciel, il y avait comme des larmes de sang, et ma famille disait, il se prépare un bain de sang. Mmh. Ce sont des témoignages intéressants parce qu'ils montrent que ça a beaucoup frappé des enfants, probablement, puisque pour être encore parmi nous, avec un souvenir aussi précis, ça devait être des enfants à l'époque.
Et vous savez que Lucie de Fatima disait, ce n'est pas une aurore boréale. Dites-leur que ce n'est pas une aurore boréale, ils se sont trompés. Les scientifiques ont assimilé cela parce que ça, ils connaissent. Mais, enfin, ça ne prouve pas qu'elle ait raison, mais c'est un signe indiscutable. Alors oui, il y a l'affaire que la Vierge avait parlé d'une guerre qui éclaterait sous Pie XI. Or, la guerre a éclaté sous Pie XII. Mais ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas un obstacle du tout, parce que la guerre a bien commencé sous Pie XI. L'Anschluss de l'Autriche et l'invasion des Sudètes, c'est quand même bien sous Pie XI, donc la guerre était virtuellement commencée à ce moment-là. Ouais. Tout concorde.
Bien, alors il y a beaucoup d'appels, mais qui concernent le filioque. Alors on a déjà fait deux fois, dans deux émissions, on a évoqué cette question qui est inextricable. Je ne voudrais pas y rentrer encore. Je vais quand même donner la parole aux auditeurs parce que je ne voudrais pas accréditer cette critique qui me paraît alors littéralement renversante. C'est un auditeur qui dit « Je déplore que Serge ne réponde jamais aux critiques ». Ce qui est absolument faux. Je crois que je cite beaucoup plus les messages critiques que les messages favorables. Alors là, je suis obligé de dire, monsieur, que ce que vous dites est contraire à la réalité. Alors la preuve, je vais la donner tout de suite en citant les messages critiques. Dites à Marc Dème que le credo, que dans le credo on dit que le Saint-Esprit possède du Père et du Fils, mais ça je crois que vous savez très bien ce que vous avez dit.
Ça ne m'avait pas échappé.
Un auditeur dit « Par le Fils n'est pas contradictoire avec filioque », c'est plus précis.
C'est pas la même chose.
Oui, tout simplement. Aussi, mais enfin, par et deux, oui. C'est pas la même chose. Et par et plutôt, c'est pas la même chose. Et expliquez en quoi le texte « Ad gentes » est hérétique. Alors un auditeur nous donne le texte. La charité du Père, qui étant le principe sans précipe de qui le Fils est engendré, de qui le Saint-Esprit procède par le Fils.
Oui.
Alors, il faudrait retrouver...
De qui, c'est-à-dire du Père. Ah mais oui, je n'ai pas apporté, mais oui, c'est ça le texte. Mais c'est en effet dans une proposition relative.
Ah voilà, j'ai cité les textes, je ne voudrais pas rentrer dans le débat parce qu'on n'en sortira jamais... un jour peut-être qu'on fera si les auditeurs y tiennent une émission là-dessus, mais enfin ça fait quand même un certain nombre de siècles qu'on en parle et on n'est pas encore tombé d'accord. Voilà. Et puis alors pour finir la petite rosserie que je vous avais promise, les éditions du Rocher ne me paraissent pas sérieuses pour publier un livre religieux, pourquoi n'avez-vous pas choisi un autre éditeur, demande une auditrice à Marc Dème.
Oui, intéressant. Alors pourquoi? Parce que les éditions du Rocher publie évidemment certaines autres choses qui ne sont pas du tout dans mes idées, ça c'est clair comme le jour, y compris dans la même collection. Bon, pourquoi? Parce que j'ai trouvé le moyen, vous savez, on ne choisit pas ses éditeurs, comme ça j'en ai quand même plusieurs que je peux prendre, mais ils ne sont pas non plus innombrables, ils ne sont pas non plus sans nombre, enfin sans... Il y a un certain nombre d'éditeurs. Et c'est celui-là qui a...
À vrai dire, c'est plutôt l'éditeur qui choisit ses auteurs, oui, que le contraire, oui, il faut bien dire, à l'heure actuelle. Alors voilà, Marc, je vous remercie. Alors, il reste à lire beaucoup dans votre livre, parce que vous n'avez pas dit le millième de son contenu, Dieu merci. Je rappelle qu'il s'agit d'un livre intitulé « Le troisième secret de Fatima » de Marc Dehaime, paru aux éditions du Rocher, dans la collection « L'homme et l'univers », avec une très belle photographie en couverture de cette scène qui est poignante quand on voit à Fatima, et qui montre ces vieilles dames qui avancent vers la basilique en marchant sur les genoux. Oui. Je veux dire que... Je ne sais pas comment elles font. C'est une forme de martyr, parce qu'elles marchent pendant des kilomètres et des kilomètres.
Serge, est-ce qu'on peut ajouter un tout petit détail pratique? Bon, alors ce livre sera en librairie vendredi, mais on peut aussi le commander à Yotacom, dès maintenant, en envoyant 120 francs, donc frais de transport compris, à Yotacom. Rappelez-moi.
Boîte postale 52 78 101 Saint-Germain.
Voilà.
Saint-Germain-Sedex.
Il y a déjà des commandes d'ailleurs avant qu'on ne sache le jour où ça paraît.
C'est parce que vous en avez fait un exposé, vous en avez fait une présentation brillantissime au cours de cette brillantissime université de Renaissance catholique qui s'est passée à Mérigny, où il y avait quand même la crème de l'élite, hein, ça il faut bien dire. Eh bien, on change complètement de ton, pas vraiment d'ailleurs, avec Marie-Josée. Bonsoir Marie-Josée de Bravoura.
Bonsoir, Serge Lebecquèche.
Venir nous voir de temps en temps.
Oui.
Comme disait Michel de Gézère à l'Université de Renaissance catholique, toute la famille 2 est vraiment beaucoup représentée dans ces endroits.
Donc ça ne sera pas de
peu,
ça va.
De Molnaire, de Gézère, de Bekech. Oui, là, c'était pas, à l'époque où on l'a acheté, c'était pas cher les particules. Maintenant, ça commence à devenir coûteux. Vous êtes toujours de bonne humeur?
Toujours de très très bonne humeur.
Et vous faites partie des 70% de Français qui trouvent que M. Balladur est quelqu'un de formidable?
Oh, bien plus que 70.
100%.
Oh,
plus de 100,
oui.
Probablement.
Oh, oui.
110%. Pourquoi, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Bon, par exemple, il a parlé des plans quinquennaux, vous, ça vous branche, comme on dit maintenant.
Bah, c'est formidable, vous vous rendez compte? Balladur, maintenant, on peut en parler de M. Balladur, parce que ça fait quand même un petit peu de temps qu'il est au gouvernement.
Oui, M. Balladur, parce qu'il a,
oui,
il a apporté une nouvelle dimension, une dimension
monsieur,
qui doit nous plaire, c'est la dimension courtoise dans la vie.
Je ne dirais pas que c'est un monsieur, mais c'est M. Balladur.
Voilà.
D'accord? Et moi, j'ai trouvé que c'était bien, je suis ravi cette semaine, ce mois-ci, de pouvoir dire aux auditeurs ce qu'ils n'ont sans doute pas remarqué, c'est que grâce à M. Balladur, la France est enfin réunie. C'est une grande kermesse socialiste, c'est un grand bain de famille, de la grande famille, qui n'est certainement pas de la famille de droite, qui est une famille tout à fait dans la continuité du passé. Et je pense que M. Balladur a dû... très bien comprendre la leçon des socialistes qui, en fait, nous ont raconté des blagues et ont été maintenus au pouvoir combien de fois? Trois fois. Trois fois de
oui,
suite, hein.
Au moins,
hein. Donc, je crois qu'il a décidé de faire la même chose. Et à ce moment-là, en ce moment, c'est bien. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus que de la gauche. Ça veut dire qu'ils sont tous réunis dans un seul... Enfin, il n'y a qu'une seule chose qui, à mon avis, désunirait les Français. Donc, ça fait vraiment très peu. C'est la vraie droite, mais en dehors de ça, ils sont tous d'accord.
Non. Vous avez d'autres motifs de contentement, mais on va très, très vite passer...
Ah oui.
retourner la bobine.
Oui.
Parce que c'est comme ça qu'on fait. C'est la pause technique, ça s'appelle. Ouais. Et puis, on reprend pour vos autres motifs de contentement. Et après, on laisse la parole à Daniel Amiche et à ses fous du roi. Alors, sans perdre une minute, Marie-Josée, il faut absolument que vous nous indiquiez les autres motifs de satisfaction et de bonne humeur qui vous...
Bien, vous aviez fait remarquer que M. Balladur avait beaucoup parlé des plans quinquennaux.
Oui.
Moi, je sais pas...
Quinquennaux,
hein. Moi, ça m'avait rappelé plutôt des mauvais souvenirs. Mais mes amis qui ont fui la Russie communiste sont en fait très heureux parce qu'ils se sentent chez eux, chez nous. Autrefois, ils étaient réfugiés, mais maintenant, ils commencent à se ressentir chez eux. Ils se posent quelques questions. Hein.
Ça fait sérieux, en plus.
Bah, oui, parce qu'en fait, un plan quinquennal, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un plan où on demande 5 ans pour faire un bilan. Donc, quand c'est trop tard, on essaye de le faire, que ça dépasse les élections. Hein. Sinon, c'est pas utile. Donc, ça prouve qu'on est bien dirigé par quelqu'un qui connaît bien la règle du jeu.
Et puis, des plans quinquennaux, quand on n'est pas assuré de rester plus de 2 ans au pouvoir, c'est quand même rigolo. Quoi.
C'est un sens de l'humour assez extraordinaire. Et puis, c'est surtout que c'est pris différemment, c'est-à-dire que vraiment, les gens qui ont tout fait, qui se sont fait massacrer, faire tomber le rideau de fer, ils s'étonnent. Ils trouvent que les Français, vraiment, là, on va quand même très loin. Hein. Eux, ils n'en veulent plus, mais nous, on en fait.
Alors, il y a d'autres domaines où ça va particulièrement bien. Et bon, le domaine de l'emploi, le domaine de l'enseignement, des petites et moyennes entreprises, l'agriculture, c'est...
Oh ben là, tout baigne. Là, c'est merveilleux parce qu'ils ont compris qu'en racontant des blagues, on restait trois fois. Donc, on recommence exactement les mêmes choses et on reprend exactement les mêmes arguments. Ça veut dire, si ça marche pas, c'est pas du tout parce qu'on ne travaille pas en France. Non, non, ça c'est pas un problème. Non. L'essentiel, c'est de diviser le travail. Qu'il y en ait de moins en moins qui bossent et que ceux qui bossent divisent ou le travail ou ce qu'ils touchent. Ça, c'est un raisonnement que les socialistes nous avaient déjà fait plusieurs fois.
Oui, mais vous savez, c'est typique. Regardez, c'est typiquement socialiste. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, en Russie, en Ukraine. Mm-hmm. Il y a 60 ans, en Ukraine, il n'y avait pas à manger pour tout le monde. Donc, on a donné... il y avait ceux qui ne mangeaient pas du tout, qui mouraient de faim. Mm-hmm. Et puis, il y avait ceux qui mangeaient normalement, qui vivaient. Alors, on a pris à ceux qui mangeaient normalement pour donner à ceux qui ne mangeaient pas du tout. Mais comme ceux qui mangeaient normalement étaient beaucoup moins nombreux que ceux qui mangeaient pas du tout, ça fait que... plus personne n'a mangé à sa faim, et donc tout le monde est mort. Donc, en donnant à manger à tout le monde, vous assurez quand même une certaine égalité dans le traitement final. Et pour le travail, c'est pareil. Vous avez des chômeurs qui n'ont pas du tout de travail, puis vous avez des travailleurs qui ont du travail. Si vous donnez un tout petit peu de travail à tout le monde va se retrouver dans
absolument.
Une situation de chômeur.
Et moi, je pense d'ailleurs que tout ce qui est à l'heure actuelle pour tuer les petites PMI, les petits commerçants, etc., c'est fait dans ce but-là. C'est quand même plus facile de partager quand on a une grosse somme en beaucoup de morceaux que si on a des petites sommes et qu'il faut faire les péréquations. C'est compliqué. Là, ils simplifient le problème. C'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs, qu'ils allaient simplifier.
Au fond, quel est le problème du chômage ? Le problème du chômage, c'est que dans un pays de 60 millions d'habitants, prenons des chiffres ronds, dans un pays de 60 millions d'habitants, il y a 3 millions de chômeurs. Donc c'est un problème. C'est comme, tiens, je vais prendre un exemple. Vous êtes bronzé, mais vous êtes blanche.
Oui.
Si vous aviez une tache brune sur le visage, ça serait un problème.
Oui.
Si vous aviez tout le corps brun, ça serait plus un problème, parce que ça voudrait dire que vous êtes une négresse. Donc,
je vous coupe tout de suite. Oui. Si j'avais une tache blanche sur mon corps brun, j'ai de nouveau un problème.
C'est une maladie, c'est autre chose. Alors, reprenons le problème du chômage. Pourquoi c'est un problème le chômage en France ? C'est parce qu'il n'y a que 3 millions de chômeurs.
Voilà.
Si vous êtes dans un pays où il y a 60 millions d'habitants, s'il y a 60 millions de chômeurs, c'est plus un problème.
Voilà.
Et s'il y avait 57 millions de chômeurs et 3 millions d'habitants, le problème est de travailleurs, le problème c'est les travailleurs. Donc à ce moment-là, on s'occuperait de supprimer l'emploi.
Voilà.
Ce serait quand même beaucoup plus facile.
Alors, Serge, pourquoi ils ne vous prennent pas au gouvernement ? Parce que le problème du gouvernement à l'heure actuelle, c'est le même problème avec la cohabitation qu'avec les socialistes. Voilà. Ils nous l'ont expliqué. Sarkozy, il a bien dit, c'est pas 6 heures qu'ils ont bossé, c'est 7 heures. Il y tient beaucoup. Et ils ont bien dit que le seul problème, c'est qu'on ne comprend pas, nous. Nous, on est bêtes, on ne comprend pas du tout. Mais ils vont certainement arriver à nous expliquer, puisque vous, d'accord, vous y arrivez, mais ils vont nous expliquer pourquoi on n'y arrive pas. Et ce jour-là, on sera tous contents. Et je crois qu'on n'a vraiment pas de problème. C'est bien parti pour ça.
Et ben voilà.
Moi, je serais eux, je vous prendrais tout de suite. Moi, j'ai compris. Les auditeurs ont tout compris.
Oui, c'est clair. Mais qu'est-ce que vous dites? Peut-être qu'il faut écrire à M. Balladur en lui disant, Beckett, je cherche du travail. Tiens, à propos, je cherche du travail.
Alors là, je pense que c'est tout trouvé. Voilà. Donc, c'est tout trouvé. Là,
ministre, c'est... ça me plairait bien.
Ah oui, mais de la communication.
Non, ministre des bonnes idées rigolotes. Je vous dis, le chômage, j'ai réglé le problème en deux coulées gros. Merci, Marie-Josée. Est-ce que vous sculptez toujours? Vous polissez toujours?
Je sculpte énormément et je n'ai pas pris de vacances. Et c'est pas vrai ce que vous avez dit. Je ne suis pas bronzé.
Oh, vous avez un... Alors, c'est le teint qu'on acquiert, c'est le teint des poulets de Brest. Quoi, que vous avez...
Non, parce que j'ai travaillé dans un atelier aux environs de Paris. Bon. Mais le soleil rentrait dans l'atelier, c'est vrai.
Merci. Au mois prochain.
Au mois prochain pour une bonne nouvelle.
D'autres motifs de nous réjouir. Alors, au moment de Fatima, a dit un auditeur, Salazar n'était pas au pouvoir, c'était les communistes que Fatima a contribué à faire partir. Connaissez-vous le sort de la communauté de Fatima depuis la mort de l'abbé Boyer ? Non, j'ai pas de lumière là-dessus récente. J'ai reçu quelque chose d'eux il y a quelques semaines, mais pas tout récemment. Une autre auditrice qui habitait Lyon et qui a vu la fameuse lueur rouge dont on parlait, et puis une auditrice qui évoque plusieurs livres que Marc Dem a certainement lus, mais comme il n'est plus là, je ne peux plus lui poser la question, Les prophéties pour les temps actuels, ça je suis à peu près certain qu'il a lu, de Georges Ouloir, paru en 1948, La danse de tous les peuples de Raoul Auclair et La prophétie des papes, paru en 69, qu'en pense-t-il? Eh bien, je peux pas lui poser la question, il est parti, mais je crois qu'il faut pas trop s'énerver sur les prophéties. Parce qu'on finit par tourner en rond. Bon. Ma chère Cécilia, on ne s'énerve pas sur les prophéties, on va faire des fleurs, on va parler de fleurs.
Bonsoir aux auditeurs, on n'a pas notre petite espagnole.
Alors, je vous propose d'en faire l'économie aujourd'hui pour des raisons de temps, parce que...
Pour avancer un peu les choses.
Mais je peux chanter 2-3 notes d'espagnola. Non, c'est pas la peine. Bon.
Si vous voulez.
Alors, vous nous avez amené une invitée.
Alors, voilà, on va demander d'abord à Patrick de nous passer la petite interview que j'avais prise à Toronto, au cours de la WAFA, pour les auditeurs qui n'étaient pas... À l'antenne 11 juillet, nous rappelons que c'était un festival d'art floral international. Donc cette petite interview concerne le bilan de ce qui s'est passé à Toronto et ce qui va se passer dans 3 ans en Nouvelle-Zélande. Alors je demande l'indulgence des auditeurs car c'est pas de très bonne qualité, je suis pas très très bien équipée, j'ai fait ça avec un petit...
Avec moi ils ont l'habitude.
Un truc de poche. Et puis nous avons aussi évité la traduction simultanée, par respect pour les gens qui comprenaient la langue dans laquelle ces dames s'expriment.
Bien, alors on va passer de la langue anglaise sur la radio de la francophonie.
Puisque c'était quand même dans un pays anglophone.
Colomba Fuller, vous représentez le comité de la WAFA Canada. Le 4e show vient de se terminer. Que pense-t-on au Canada de ce show? Est-on satisfait? Pouvez-vous nous dresser un rapide bilan de ces 6 jours, de ces 3 jours plus exactement?
Nous en sommes très très contentes. Mais la plus grande satisfaction pour nous a été de rencontrer tous nos amis de partout. Et avec les fleurs, tout le monde s'est réuni encore une fois.
Combien de pays étaient représentés?
23 pays.
De toutes les parties du monde, bien entendu.
Oui, absolument partout. Avec quelques-uns, avec plus de nombre que d'autres.
Bien sûr. Et la qualité des prestations dans l'ensemble,
vous êtes
satisfaite?
Oui.
Bon, donc tout le monde est content, la présidente, la vice-présidente, tout le monde.
Tout le monde est très content, c'était un grand événement.
Voilà. Et un peu soulagé au terme de 3 ans de lourd travail.
Exactement, surtout maintenant on se sent tellement soulagé que c'est presque... on ne sait pas quoi faire.
Vous avez trouvé un grand vide.
Oui, c'est ça.
Donc le flambeau a été transmis hier, je crois, à la Nouvelle-Zélande, qui va être le pays hôte pendant 3 ans, et Hélène Herbert vient d'être élue présidente. Pouvez-vous lui demander de se présenter en quelques mots pour les auditeurs de Radio Courtoisie?
Hélène, would you like to introduce yourself? Just put a few words for the
I am Hélène Herbert from New Zealand. And I have been in flower now for 20 years in New Zealand, and I just recently have finished my term as being national president of our Flower Art Society of New Zealand. That was a 2-year term, and now this follows on, and we've got our 3 years preparation now for the World Show in New Zealand in 1996. I live in the South Island of New Zealand, down in Otago, which is quite well down in New Zealand, down near the bottom of the South Island. Peter and I are on a farm with sheep and cattle, and we have 4 grown-up children. Well, they're not children now, grown-up family, 3 daughters and 1 son, and we have a little grandson.
C'est beaucoup à répéter.
Résumé tout au moins.
Alors, ça fait 20 ans qu'elle est en Nouvelle-Zélande, et... pendant les 3 dernières années, elle était présidente des President of the Garden Club of New Zealand.
The Flower Art Society.
Flower Art Society de la Nouvelle-Zélande. Elle habite... Where do you live exactly?
Otago.
And where is that?
Down towards the very south of the South
is
Island.
Is that close to Wellington?
Oh no, Wellington is in the North Island.
Oh right. Ils habitent à l'île du Sud, au bout de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande. Elle a 4 enfants et 2 qui sont assez grands maintenant. Et elle a pris hier la présidence de la WAFA.
Alors, quels sont ses sentiments au seuil de ces 3 ans de WAFA New Zealand?
Now, what you look forward to 3 years?
It's going to, I am looking forward to the challenge. It's a great honour. We know it's going to be a lot of very hard work.
C'est un grand honneur pour Nouvelle-Zélande et que ce sera énormément de travail.
Yes,
ça,
yes.
On le sait.
As I said yesterday, the Gina was only the language of flowers, the friendship through flowers, the people you meet. And it's a great honour for New Zealand to be hosting this World Executive for 3 years, and a great honour for me to be the President. The seven on our committee are working very closely now. We've been meeting for 18 months, and we've moulded ourselves into a team, and we each have our positions in that team.
Elle dit que c'est un grand honneur pour la Nouvelle-Zélande et elle s'attend avec plaisir à faire beaucoup d'amitié à travers les fleurs. Et il y a déjà 18 mois qu'elle travaille à l'organisation de la WAPA Nouvelle-Zélande.
Alors quel est le programme?
What is your program?
Our program, we're having the international seminar in 1994 in November.
Un séminaire en 1994
en novembre, et puis le show world show as we've had here this week in April 1996.
La grande finale, c'est en avril 1996.
Et que diriez-vous aux Français pour les inciter à faire ce long voyage pour ces fameux 3 jours d'avril
1996? What would you tell the French to incite them to go to New Zealand for the big show?
Il faut absolument les tenter.
You have to tempt them.
New Zealand is a beautiful country. We have very unique plant material. We have a lot of our own native plant material.
La Nouvelle-Zélande est unique. Beaucoup de feuillage unique.
Also a large amount of exotic plant material.
Et de plantes exotiques.
I think possibly getting back to money again, as we were talking earlier, the exchange rate, our exchange rate is very favourable. Three of our dollars equals £1 sterling.
And what would that be in French francs?
On va être obligé d'interrompre parce qu'on a vraiment un problème de diffusion. J'ai des appels d'auditeurs qui disent qu'on n'entend pas. Ça passe très très mal. Mais enfin, on a compris qu'il s'agit d'organiser.
Voilà, elle disait surtout que le change est extrêmement avantageux pour les Français. Et ça, ça nous avait paru être un argument
décisif. Alors, on a l'impression quand on entend ça, et d'autant qu'on l'entend avec beaucoup de difficultés, qu'il s'agit. Vous faites partie d'une espèce de société secrète mondiale, en Nouvelle-Zélande, au Canada.
Nous demandons qu'à nous ouvrir.
Bon.
Et alors Daniel Pratt, bonsoir. Il est inutile de vous demander si vous serez à Wellington dans 3 ans, parce que je pense que la réponse est oui.
Ah, si Dieu veut.
Vous connaissant mais comme nous vous connaissons,
bonne réserve.
C'est oui. Et alors merci d'être là ce soir, car vous êtes venu tout spécialement de Castres pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Vous êtes la présidente de la société d'horticulture du Tarn Midi-Pyrénées. Et à ce titre, vous présidez aux destinées de l'art floral dans cette ravissante ville de Castres. Vous êtes la présidente de cette société d'horticulture depuis combien de temps?
Ben d'abord, je voudrais vous dire bonsoir, Cécilia, et bonsoir aux auditeurs. Et merci de m'offrir ces minutes d'antenne. J'espère que mon accent leur rappellera le sud-ouest avec les paysages du midi et la flore parfumée. Je voudrais commencer à rendre hommage d'abord à notre président national par ses vers. Oui, c'est un poète.
Il s'agit de Michel Cointat, que tout le monde connaît.
Michel Cointat, qui est poète à ses heures. Fleur au sang parfum de la vie, aux multiples couleurs et des joies et des heures, vous êtes le clin d'œil complice du bonheur. Ben, il est heureux d'avoir un président national qui est poète. Je pense que nous devons l'imiter. Dans Midi-Pyrénées, c'est vrai, comme vous dites, que j'anime cette région depuis 14 ans, à la tête de la société d'horticulture donc de Midi-Pyrénées. Nous avons plusieurs villes, 7 villes bientôt avec Cahors, et beaucoup de sections.
Et alors, vous me disiez que cela vous faisait un rythme de vie absolument effréné, 200 réunions par an. Entre autres choses.
Oh ben oui, cela varie entre 200 et 250 réunions. Quand on sait qu'on a une moyenne de 15 réunions par mois avec la préparation, c'est un full time, mais c'est un bénévolat.
Full time, c'est un mot interdit. Hein. Oui, c'est du plein temps.
Ici, oui. C'est du plein temps. Non, radio courtoisie, il est vrai.
La radio du pays relais de la francophonie.
Vous avez une très jolie phrase. Elle dit que ce n'est plus du bénévolat, c'est du mécénat.
C'est du militantisme.
Je suis la petite Médicis du coin.
Alors, comment êtes-vous venue à l'art floral avant de devenir président de cette société?
Oh oui, eh bien, Cécilia, je vous en avais parlé. De mon plus jeune âge, j'ai toujours eu une âme artiste. J'aimais et je dessinais à 12 ans des modèles de mode et de chapeaux. C'est vrai que, paraît-il, j'étais assez douée pour le dessin et la couture. Les professeurs, allant voir mes parents, leur demandaient que je fasse les beaux-arts. Mes parents étant des constructeurs, de grands constructeurs d'immeubles, il a été question que je fasse de la gestion. C'était tout à fait voisin.
J'aurais pu avoir l'élégance de vous faire faire architecture.
C'est très utile maintenant, d'ailleurs.
Oui, j'adore. Oui, l'architecture. Et donc, sortie du jour familial, j'ai pu assouvir mes passions de dessin, de mode et de création de chapeaux. J'ai même accompagné des collections. Et puis, j'ai quand même eu la responsabilité de la branche de construction de maisons. Clé en main, j'ai fait la décoration. Et en venant à Paris, aux grandes expositions à la Porte de Versailles, je me suis aperçue que les bouquets entraient dans les expositions de maisons clé en main. Et comme j'en avais la charge à la maison, maman n'étant pas du tout une artiste, mais une femme d'affaires, donc j'ai dit, je vais apprendre à faire les bouquets. Et j'ai participé depuis de très nombreuses années aux expositions. J'ai été après dans les écoles chez Monique Gauthier, chez Guy Martel.
C'est là où écoles,
notre amie Cécilia m'a ramenée sous une pluie battante. Un jour, elle m'a fait chauffeur et je la remercie.
Alors finalement, la gestion mène à tout, même aux
voilà,
fleurs.
Vous voyez, même
c'est
aux
plutôt
fleurs.
Bon signe.
Oui, peut-être je me détendais. Et alors, et c'est vrai, alors après, en participant au premier concours, puisque notre association a 16 ans d'existence, le premier concours de la société d'horticulture, dont à Midi-Pyrénées, j'ai fait 3 bouquets, j'ai eu les 3 prix. Alors j'étais honteuse, j'ai pris la carte d'adhérent et on m'a demandé d'animer la section art floral. Et puis voilà, je suis devant et je tire la brouette fleurie depuis 14 ans exactement. Et c'est une association formidable de bénévoles, et cette centaine de bénévoles a peut-être permis d'arriver au niveau international maintenant.
Et vous occupez aussi des concours de villes et villages fleuris de France. Vous étiez la semaine dernière sur les routes pour cette chose-là.
Oui, puisque notre société d'horticulture affiliée à la Société nationale, qui est au jury national des villes fleuries, non de par ma fonction également de délégué de la Société nationale, donc je suis au jury des villes et villages fleuris en Midi-Pyrénées. Et c'est vrai que les villes et les villages fleuris sont adhérents de notre association, en plus des amateurs de jardin, des professionnels et de l'horticulture.
Alors, nous allons parler d'une grande chose qui se prépare pour le mois de septembre, qui vous occupe tous les ans. Et cette année, c'est la 15e, je crois.
La 16e.
La 16e, oui. Vous avez fêté votre 15e anniversaire l'an dernier. Alors, oui. Parlez-nous de ce qui va se passer les 18, 19 et 20 septembre prochain.
C'est 18 et 19 septembre, oui. Si l'an dernier, vous le rappelez, Cécilia, nous avons fêté notre 15e anniversaire avec beaucoup d'éclat. Un salon de la rose était en plus dans le cadre du concours international d'art floral. Nous avons baptisé la rose Toulouse-Lautrec que vous trouverez dans le commerce au mois de septembre.
C'est superbe, une rose jaune
et elle est parfumée. Donc cette année, c'est la plus grande manifestation de notre association. Si nous avons 200 rencontres, la plus grande étant le Festival Floral International. Il faut le dire, cette année, c'est le seul concours international d'art floral donc en France. Et nous avons des candidats et des visiteurs qui viennent de toute la France et de plusieurs pays. Nous faisons quand même un score sur 2 jours de... Nous avons fait l'an dernier 12 500 visiteurs.
12 000
c'est une manifestation qui m'occupe toute l'année. Mais là,
entre deux
la
voyages,
dernière ligne droite, et C'est vraiment avec peu d'heures de sommeil.
Alors, le thème cette année ?
Alors, il y a le grand thème général, l'Europe des jardins, des industries et des hommes, ou des hommes, sans tenir compte de l'époque. Ce grand thème général est pris par les espaces verts des villes, les administrations, les professionnels. Je dois quand même souligner que le jardin du Luxembourg sera présent. Nous aurons une exposition de 100 variétés de fruits. Nous avons les maraîchers. Les bouquets dans la salle d'exposition, dans la grande salle, comme je rappelais à Cécilia, qui est l'ancien manège de Napoléon III, de l'armée. Nous avons une ville avec beaucoup de militaires.
Ville de garnison.
De garnison, oui. Et donc, cette grande salle abrite dont le concours international comporte 9 thèmes, avec le premier thème, les grands socles, l'Europe des jardins et des industries ou des hommes, puis des suspendus avec liaison par satellite pour se relier en Europe. Il faut bien quand même y penser. Les tables qui accueillent des présentations toujours très intéressantes auront pour thème table de gala pour un pays d'Europe, et les niches de présentation qui accueillent les bouquets avec les thèmes suivants: un ikebana, soleil levant en Orient ou Occident. Pourquoi? Puisque nous accueillons au spectacle d'art floral Marcel Vrignot de l'école Ouara France, dont un ikebana imposé, un classique imposé avec grand siècle à Versailles. Notre monarque ne dominait-il pas l'Europe?
Je crois qu'on va en parler.
Voilà.
Ça tombe très bien. Ah. C'est vrai que c'est la Saint-Louis aujourd'hui. Oui. Je pense que vous allez en parler aussi.
Voilà. Alors, d'une mer à l'autre, un moderne pour aller en Europe, un moderne imposé, puis un libre encore, puisque tous les autres sont libres, invitation au voyage, pour aller en Europe, il faut bien voyager, et puis peut-être les livres, les contes et nouvelles. Nous avons là un thème qui devrait séduire quelques auditeurs, et une catégorie très spéciale, réservée aux amateurs débutants, la chasse. La chasse, ce qui nous permettra d'avoir une troupe de sonneurs pour ouvrir le cortège officiel.
Et alors, vous me signaliez la présence au spectacle d'art floral d'un Anglais dont la provenance est assez particulière, puisqu'il s'agit d'une école qui a plus d'un siècle d'existence.
Eh bien, oui, près d'un siècle. C'est disons, grâce à l'école Constance Spry, que l'art floral est venu en Europe. Nous ne pouvions pas l'oublier non plus. J'ai eu la chance, donc, après mes voyages, nous en parlerons si vous voulez, d'aller en Angleterre, au Chelsea Flower Show, et de rencontrer ce professeur, Fred Wilkinson, qui fait partie de cette célèbre école, qui assura la décoration, cette école, du couronnement de la reine, sa gracieuse majesté la reine Elisabeth II. Fred Wilkinson, pour sa part, fait décoration à Buckingham, est professeur à l'école, et fera 2 bouquets en ouverture du spectacle avant Marcel Vrignot. Pourquoi? J'expliquais que les Anglais, ces grands amateurs de jardin, partaient faire le grand tour, comme ils appelaient. Ils en venaient dans la mer des jardins, la Chine, ils allaient aussi au Japon, en Italie. Et donc, en ouverture, comme nous recevons les responsables de la Royal Society Horticulturale, excusez l'accent, mon fils qui est entièrement bilingue serait...
Il tirera les oreilles.
Il ricanerait méchamment.
Vraiment pas du tout content. Donc, nous les recevons et nous accueillons Fred Wilkinson.
Alors, pour nos auditeurs qui voudraient soit participer au concours, soit aller seulement en visiteur, car de toute façon, la région en plus mérite aussi un petit séjour. Où peuvent-ils s'adresser et se renseigner plus précisément?
Bien, oui, nous serions heureux de les accueillir, parce que notre association, si elle parcourt le monde pour être présente dans les concours internationaux, comme Saint-Pétersbourg et Toronto, j'ai eu la joie de vous revoir, ainsi qu'à Monaco, nous aimerions que les Parisiens
se déplacent un peu plus.
Se déplacent un petit peu plus. Nous les accueillons puisque nous avons des gens qui viennent d'autres pays, qui traversent les mers comme de Jakarta. Et il faut savoir que Castres n'est qu'à 1 heure de Paris. Je suis venue par avion ou avec le TGV. Donc, nous leur demandons de nous téléphoner au 63 59 27 47. Ou au 63 59 03 58, où ils peuvent écrire à la Société d'horticulture Midi-Pyrénées, maison des associations, à Drouot,
81 100 Castres. Nous sommes prêts à les accueillir avec beaucoup de générosité, puisque nous leur offrons les places au théâtre, le cocktail et le déjeuner. Nous n'avons pas la Tour Eiffel.
C'est très gentil.
Et le cassoulet, alors, monsieur.
Je laisserai des renseignements au secrétariat.
Je ne sais pas pourquoi vous avez parlé du cassoulet. Ça me paraît une pierre parce dans mon jardin.
Ah non, pas du tout. Parce que l'an dernier, nous leur avions offert un merveilleux cassoulet au confit d'oie. Et ils étaient ravis et nous allons renouveler. Voilà.
Je voulais présenter pour les auditeurs qui me demandent quelquefois des conseils pour faire des bouquets, mmh. alors que cette chronique n'est pas un cours d'art floral, mais une chronique. Non. Un livre que j'ai reçu ce matin, j'y reviendrai donc le mois prochain.
Mais vous pouvez déjà en donner le titre,
de l'art du bouquet, dans la collection Savoir-faire chez Solar, et qui est un petit peu classique, un petit peu traditionnel, mais qui est une très bonne approche pour un premier contact avec l'art floral. Nous y reviendrons le mois prochain. Et je voulais simplement, pour les auditeurs de Normandie, annoncer une manifestation qui aura lieu le mois prochain à...
Peut-être comme moi, vous avez beaucoup d'ordre dans vos papiers.
Près de Cherbourg, au château de Tour-la-Ville, dans le cadre d'un Dahlia-rama, Liliane Labarrière et Solange Legras, que nous accueillerons aussi sans doute le mois prochain, vont assurer la décoration du château. On peut avoir des renseignements au 33 51 09 76. Ça se tiendra du 16 au 20 septembre. Et ça, je pense que tous nos auditeurs normands seront contents d'avoir là quelque chose de beau à voir.
Merci, Cécilia.
Merci à vous et bonsoir à tous.
Pardonnez-nous de vous bousculer. Les fleurs ne sont pas un sujet à bousculer, mais à partir du mois prochain, 15 septembre, le problème sera réglé, puisque vous ne serez plus en concurrence avec notre fou du roi préféré.
Au 15 septembre pour tout le monde. Voilà.
Merci, bonsoir, Cécilia. Merci. Au 15 septembre. Au revoir, madame. Merci.
Bonsoir.
Et ben, Daniel,
c'est,
alors.
C'est une concurrence agréable.
Oui, c'est une concurrence agréable, mais les horloges, contrairement à ce que pensait Dali, n'étant pas élastiques.
Non, elles ne sont pas molles, en tout cas pas Radio Courtoisie. Merci Serge de votre accueil, bonsoir aux auditeurs. J'espère que l'émission va être un tout petit peu trop bouleversée, parce que nous avions prévu un programme, et puis voilà, comme ça se passe toujours, nous sommes un petit peu en retard. Alors aujourd'hui, c'est le 25 août, et le 25 août, comme tous les bons Français le savent, c'est la Saint-Louis. Alors, tout à l'heure, ces dames nous ont proposé des fleurs. On peut dire que ce sont des fleurs qui ont été données en hommage à Saint-Louis. Mais il y a quelqu'un que je voulais absolument avoir aujourd'hui à nos côtés, en tout cas à nos côtés phoniquement parlant, puisque nous ne l'aurons pas malheureusement dans le studio. Il est actuellement en congé, un congé bien mérité. Il s'agit d'un invité surprise et je ne sais pas si nous l'avons actuellement au téléphone. Allô ?
Allô, allô.
Ah, monsieur Paul Gut, je
serais gentil de parler le plus fort possible.
Très content de vous avoir.
Parce que je n'ai pas un double écouteur, malheureusement.
Bien. Écoutez, je suis navré de vous prendre aussi tard, mais vous savez, le studio de Radio Courtoisie, c'est un peu comme un aéroport en période d'été. Si un avion prend un peu de retard, les autres sont obligés de tourner dans le ciel en attendant qu'on leur donne l'autorisation de se poser.
Alors, comme des oiseaux.
Comme de beaux oiseaux.
Des beaux oiseaux.
Comme nous sommes aujourd'hui la Saint-Louis, je voulais vous avoir au téléphone, auprès de nous par les ondes, à défaut de vous avoir dans le studio, puisque comme je viens de dire aux auditeurs, vous prenez des vacances bien méritées, après la parution d'un magnifique ouvrage qui est publié chez Desclés de Brouet, qui s'appelle, d'ailleurs trop modestement, Petite vie de Saint-Louis. Oui. Alors moi je trouve que cette Petite vie de Saint-Louis est un grand et un beau livre. Et je me suis demandé à sa lecture et en y réfléchissant si vous étiez au fond vraiment un homme de lettres ou plutôt un joaillier.
Oh que c'est gentil. Que c'est gentil. Vous savez que c'est la troisième réédition de cet ouvrage.
Oui, tout à fait.
La première édition était en 1960 aux éditions Blue Dégueu. Mm-hmm. Ensuite il y a eu une autre édition aux éditions Mingeus. Et celle-ci, alors elle s'appelle Petite vie de Saint-Louis, parce qu'elle figure dans une collection d'un tout petit format, qui est Les Petites Vies de Saint. Mmh. Autrement, et alors voilà, c'est un livre dont je suis très heureux, et qui avait obtenu autrefois l'approbation de la reine du Moyen-Âge, de la sainte historienne du Moyen-Âge, Régine Pernoud.
Régine Pernoud, oui, oui.
Parce que en 1970, c'était le 700e anniversaire, oui, de la mort de Saint-Louis.
Tout à fait.
Alors on a fait des grandes fêtes, mm-hmm, qui était présidé par un homme admirable, que l'on veut béatifier d'ailleurs oui. lui-même, qui était Monsieur Edmond Michelet.
Tout à fait, c'est ministre de la culture.
Ministre des Affaires culturelles.
Voilà, tout à fait.
Et alors, on avait commandé une médaille à un médailliste, et ce médailliste n'avait trouvé aucun livre sur Saint-Louis qui pût l'inspirer.
Oui, bien sûr.
Et alors, il était allé se jeter aux pieds de Régine Pernoud, qui lui avait dit, mais est-ce que vous avez lu le Saint-Louis de Paul Guth? Vite, 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 vite. Et alors, c'est mon livre qui a inspiré à ce médailliste une magnifique médaille.
Ben, ce n'est que justice, ce n'est que justice.
Allô, mais, allô?
Oui, oui, je suis toujours là. Je disais, ce n'est que justice que votre livre ait été choisi par ce médailliste.
Et alors, figurez-vous que Edmond Michelet, qui était un homme remarquable, nous a dit une chose extraordinaire. Alors, il aimait tellement mon livre qu'il m'avait fait inscrire dans la liste du comité d'honneur, du comité d'hommage à Saint-Louis. Oui. Et à notre première réunion, M. Michelet nous a dit « Saint-Louis est plus actuel que Napoléon ». Ça, c'est fantastique. Et en effet, Napoléon, malgré tout son génie, s'est borné à approfondir le sillon de sang de l'antique violence, tandis que Saint-Louis est un novateur total, c'est un semeur qui a semé, et nous allons les dire tout à l'heure, qui a semé tellement, tellement, tellement de choses que ses moissons n'ont pas encore fini de germer.
C'est tout, c'est très bien dit et tout à fait vrai. Tout à
et
fait
alors
vrai.
Saint-Louis est l'homme d'actualité totale. Vous savez qu'on demandait un jour à Sacha Guitry, cher maître, qu'y a-t-il de nouveau à Paris? Et Sacha Guitry avait répondu, Molière. Mais ce serait encore plus vrai de dire, qu'y a-t-il de nouveau, non seulement à Paris, mais dans le monde entier? Saint-Louis, Saint-Louis. Et vous allez voir pourquoi.
Vous allez nous l'expliquer en détail, j'espère.
En détail, oui. Nous avons toute la vie pour l'expliquer. Nous avons donc en détail. C'est que Saint-Louis n'est pas un inconnu, mais c'est un méconnu. Et d'abord parce que c'est un méconnu, parce que c'est un saint, et que nous nous faisons très souvent des idées fausses sur les saints. Nous les imaginons comme des espèces de petits bonshommes en sucre, tout confiés en dévotion et en génuflexion, tout à fait dans l'imagerie de Saint-Sulpice, alors que les saints sont la plupart du temps des condensateurs vertigineux d'énergie, des hors-la-loi habituels qui ruent dans tous les brancards pour retrouver la loi du ciel. Et alors, malheureusement, Saint-Louis est un saint et son auréole a caché son génie. C'est un homme de génie en même temps. C'est un homme complet, un homme total. Il innove, il sème l'avenir. Par exemple, c'était un violent et un amoureux. Pour éteindre ses coups de sang, il disait aux autres, ou il se disait à lui-même, « Reposez-vous, soyez en paix. » Et pour refroidir son feu sensuel, car il était très amoureux de sa femme, eh bien, quand il avait envie de sa femme en dehors de son calendrier de continence, il sautait en bas de son lit et pour se calmer, pour se refroidir, il marchait pieds nus sur les carreaux. Et alors, toute son actualité, actualité perpétuelle, découle de l'amour du Christ. 7 siècles avant, il réalise sur le trône l'enseignement de notre pape actuel, Jean-Paul II. Jean-Paul II qui avait déclaré, dans une allocution aux jeunes de Paris, qui avait déclaré à la question de savoir si l'Évangile peut répondre aux problèmes d'aujourd'hui, je réponds non seulement il en est capable, mais il faut aller bien plus loin. Lui seul leur donne une réponse totale qui va jusqu'au fond des choses et complètement. En effet, la plupart des hommes politiques rapetassent l'actualité. Ces soi-disant gouvernants, qui ne sont en réalité que des gouvernés, c'est-à-dire gouvernés par les événements.
Par la passion.
Tandis que Saint-Louis se précipite sans cesse jusqu'au fond des choses, de tout son vol radieux d'ange aux yeux de Colombe. Ange aux yeux de Colombe, car c'est ainsi, mais je vous le décrirai tout à l'heure, physiquement. Et alors, au nom de la loi suprême d'amour, il veut extirper partout le mal, œuvre du diable, sous toutes ses formes, l'ignorance, la misère, la maladie, l'iniquité, la guerre, la laideur. Et alors il faut partir des origines et de son éducation. Il fut éduqué par une pédagogue, et vous savez que j'ai été professeur pendant 10 ans, avec beaucoup d'enthousiasme,
et la beaucoup reine de la pédagogie, beaucoup de reconnaissance de vos élèves.
C'est Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, qui lui a donné l'éducation idéale d'un futur roi, et une éducation qui serait valable aujourd'hui, dans une vraie démocratie, pour les enfants du peuple roi. C'est le modèle de l'éducation des enfants du peuple roi. D'abord, toute la culture, c'est-à-dire les lettres, le latin, la philosophie, la théologie, les textes sacrés. Ensuite, l'éducation du caractère, qui nous manque si cruellement dans notre enseignement d'aujourd'hui. Sens de l'effort, énergie, esprit d'initiative, maîtrise de soi. Éducation physique, ne l'oublions pas. Éducation physique, et une véritable éducation physique. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où sous le prétexte de faire de l'éducation physique, nous sommes corrompus par notre idolâtrie pour le sport spectacle qui est pourri par l'argent, comme le prouvent certaines affaires dont je ne veux pas parler ici. Et enfin, donc, cette éducation physique, c'était de l'équitation, la nage, l'athlétisme, l'escrime. Et alors, à 13 ans, Saint-Louis a échappé au baron conjuré qui voulait s'emparer de lui. Et il court s'enfermer au château de Montlhéry, d'où il envoie un message à sa mère. Et alors, il a bénéficié ensuite de ces merveilleux bains de foule que recherchent tellement les hommes politiques d'aujourd'hui. Et le peuple de Paris est venu le chercher pour le ramener en triomphe dans la capitale. À 17 ans, il a pris la tête des troupes rebelles. À 15 ans, encore étudiant, il montre comment il comprend les étudiants, ses camarades. Blanche de Castille avait fait punir leur débordement par le prévôt de Paris, qui n'y allait pas de main morte. Saint-Louis a poussé Blanche de Castille à renouveler le privilège que Philippe Auguste avait accordé aux étudiants, c'est-à-dire que seules les autorités d'Église avaient le pouvoir de sévir contre eux. Mm-hmm. C'était les fameuses franchises universitaires. Et Saint-Louis, le jeune étudiant Saint-Louis, futur Saint-Louis, a imposé un tarif aux marchands de soupe qui affamaient ses camarades au ventre creux. Il était très gai en même temps. Il ne faut pas croire que parce qu'il était saint, il était triste. D'ailleurs, un saint triste, a-t-on dit, est un triste saint. Il procédait par gags. Il adorait les gags, ce que j'ai appelé ces gags angéliques. Il adorait les gags et il parlait par gags, comme Jésus parlait par parabole. Par exemple, au retour de la Terre Sainte, de sa première croisade, il était dégoûté tellement des fourrures et des velours qu'il s'habilla comme un Français moyen qui aurait eu des malheurs. Et sa femme, qui était une petite méridionale très coquette et très élégante, lui a reproché sa négligence vestimentaire. Alors il lui a dit, étant donné que nous sommes des époux, chacun doit faire ce que désire l'autre. Vous voulez que je m'habille bien, Eh bien, je vais mettre, je vais mettre vos vêtements et vous, vous mettrez les miens. Et pour vous montrer à quel point il était gai, par courtisanerie, des moines lui proposaient de lui lire à table des livres pieux. Il a dit, oh non, mais pas du tout, pas du tout. Moi, je préfère les joyeux propos et les facéties, car il n'est si bon livre après manger comme quolibet. Quolibet qui vient du latin quod libet, c'est-à-dire que chacun dise ce qui lui plaît. Quand les ménétriers des riches hommes entraient et apportaient leur viel après manger, ils attendaient pour ouïr ses grâces jusqu'à ce que le ménétrier eût fait sa liesse, comme on disait. Il poussait la piété jusqu'à vouloir se faire moine, mais il n'admettait que le pouvoir spirituel de l'Église. Il s'opposait de toutes ses forces aux empiétements temporels de l'Église, au point de provoquer la colère des prélats qu'il accusait de laisser périr la chrétienté. En somme, Saint-Louis était un saint anticlérical. L'Évangile, ah voilà, nous y sommes. L'Évangile était pour lui parole d'Évangile et programme de gouvernement. Contre la misère, alors écoutez toutes les innovations de Saint-Louis. Contre la misère et la maladie, il est l'ancêtre d'une sécurité sociale qui, au coup de tampon en creur et aux feuilles de soins, ajouterait l'amour. Chaque mercredi, vendredi, samedi de carême et de l'Avent, et chaque vendredi et samedi de toute l'année, il sert 13 pauvres en sa chambre ou sa garde-robe. Il donne à chacun 12 deniers parisis et davantage s'ils ont femmes et enfants. Il est le pionnier de nos pensions et retraites et de notre système hospitalier. Saint Pathus dévide le chapelet des hôpitaux ou maisons Dieu qu'il fit bâtir pour les pauvres, ces messagers de Dieu. À Paris, le cloître Saint-Honoré, les 15-20 pour 300 aveugles, la maison des Béguines, le dortoir des frères prêcheurs, les maisons Dieu de Paris, de Pontoise, de Vernon, de Compiègne, la maison des frères de Saint-Maurice, de Senlis, et une foule d'autres à Rouen, Caen, Vauvert. Contre le paupérisme, Joinville, l'historiographe dont nous parlerons tout à l'heure, l'historiographe prodigieux de Saint-Louis, Joinville fait défiler les pauvres qu'il soutient. Alors c'est le style de Joinville, ça. Pauvres de religion, c'est-à-dire des religieux, pauvres hôpitaux, des hôpitaux, pauvres malades, pauvres gentilshommes et femmes et demoiselles, pauvres femmes déchues, pauvres femmes veuves et celles qui étaient en couche, pauvres ménétriers. En tout, cela lui coûtait 200 000 livres tournois par an. Taisez-vous, disait-il, à ceux qui le lui reprochaient. Dieu m'a donné tout ce que j'ai. Ce que je mets en cette manière, c'est le mieux mis. Il est l'ancêtre de la cité universitaire, car il a édifié la maison des écoliers de Paris. Il est l'ancêtre d'une administration idéale. Il envoie des enquêteurs dans les provinces annexées depuis Philippe Auguste, et les sujets ont le droit de se plaindre à ces enquêteurs des exactions de l'État. En 1254, il établit un règlement pour purifier l'administration contre le favoritisme, contre les passe-droits, contre les pots de vin dont on parle tant aujourd'hui. Il supprime la prison pour dette, humanise les impôts, introduit la vertu dans les finances. Il est le juge idéal, car Dieu est juge. Il tranche dans le taillis des juridictions féodales, il prépare l'unité législative de la France. Dans son testament à son fils, il dit cette phrase admirable. Pour rendre la justice et faire droit à tes sujets, sois loyal et roide, sans tourner à droite ni à gauche, mais toujours du côté du droit, et soutiens la plainte du pauvre jusqu'à temps que la vérité soit déclarée. Et vous savez qu'une des plus belles images de toute notre histoire, Saint Louis rendant la justice sous le chêne de Vincennes.
Oui.
C'est le prince de la paix.
Et c'est le prince de la paix. C'est vraiment, vous venez de donner un magnifique bouquet de fleurs pour cette Saint Louis, cher Paul Guth.
Et prince de la paix.
Je voulais donc redire.
Est-ce que je continue un peu ou bien si.
Il va falloir malheureusement, il n'est bonne compagnie qui ne se quitte et je suis absolument navré, mais nous avons encore d'autres intervenants et le temps est en train de passer. Mais je voulais, puisque vous nous avez fait un très beau cadeau en nous redonnant cette édition de La Petite Vie de Saint-Louis, donc publiée, je le rappelle, chez Desclés de Brouwer, où tous nos auditeurs que nous étions pourront très facilement se procurer. L'ouvrage vient de paraître, c'est d'un format très commode, c'est très pratique à lire, et c'est dans un style, c'est le style de Paul Guth, c'est-à-dire un style tout ciselé et tout facile à comprendre. On comprend tout, c'est admirable. Et je voulais, cher Paul Guth, pour vous remercier d'avoir participé à cette petite émission commémorative, donc pour fêter la Saint-Louis ensemble, je voulais aussi vous offrir une petite réjouissance sonore, puisque nous allons écouter maintenant un petit air. Ça s'appelle, le titre c'est Gaudé Félix Francia, Réjouis-toi heureuse France d'une voix particulière.
Je n'ai pas très bien compris.
Le morceau que nous allons entendre, que les auditeurs vont entendre, s'appelle Gaudé Félix Francia. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une pièce musicale, un conduit à deux voix, qui a été composé précisément pour le sacre de Saint-Louis IX. Merci Paul Guth et à très bientôt, j'espère.
Je peux raccrocher?
Bien sûr, bien sûr.
Merci.
Et voilà, c'était ce qu'on appelle un conduit en termes ecclésiastiques, et c'est un des conduits que le petit Louis IX a entendu lors de la messe de son sacre, celui qui allait devenir Saint Louis IX, que nous fêtons aujourd'hui, nous fêtons la fête de ce saint patron, et pour lequel donc notre ami Paul Guth a consacré un très très bel ouvrage, qui s'appelle Petite Vie de Saint Louis chez Desclés de Brouwer. Et Paul Guth disait que Saint Louis était en fin de compte assez méconnu des Français, mais il y a d'autres personnages de l'histoire qui sont méconnus des Français. Et en deuxième partie de notre émission, nous allons parler d'un personnage assez peu connu, en fin de compte, le nom de dira à tout le monde quelque chose, Abraham Duquesne, qui dit Duquesne dit Marine, dit Grand Siècle, mais nous n'avons gardé peut-être de ce personnage exceptionnel que une image, quelque chose sans doute de très grandiose, mais un peu comme ces images qu'on nous distribuait quand nous étions jeunes enfants et que nous avions bien répondu, n'est-ce pas, à la leçon du maître, alors nous avions des images en couleur que nous conservions avec beaucoup d'intérêt. Alors nous allons parler dans quelques instants avec l'auteur d'un livre qui s'appelle Abraham Duquesne, Huguenot et Marin du Roi Soleil, de ce grand Duquesne, et notre invité de ce soir c'est Monsieur Michel Verger-Franceschi. Et je voulais peut-être pour introduire cette seconde partie, faire entendre peut-être un peu de musique Grand Siècle.
Il y a un petit problème, on va tout de suite changer le disque, c'est normal, parce que comme on saute de disque de l'un à l'autre, c'est toujours un peu compliqué. Alors nous allons entendre une musique à la fois grand siècle et aussi une musique militaire, puisque nous allons parler quand même d'un thème un peu militaire. Voilà un court extrait, une musique militaire, c'est la marche donc la marche de Savoie, c'est-à-dire du régiment de Savoie, et c'est écrit par celui que j'affectionne beaucoup et dont j'espère je vous fais partager l'affection, Jean-Baptiste Lully. Alors, je remercie Michel Verger-Franceschi d'être venu avec nous ce soir, mais c'est un tout jeune homme. Moi, je pensais que j'allais avoir affaire à un vieux professeur d'université chenu, et c'est un tout jeune homme, il est plus jeune que moi, Serge, et donc bien plus jeune que vous.
Non, mais parce qu'il faudrait vous mettre dans la tête, ce que j'ai fini par me mettre dans la tête, c'est que les autres sont de plus en plus jeunes. Mais vous avez remarqué ?
Oui, hein, c'est un signe qui ne trompe pas.
Par exemple, une chose qui me frappe beaucoup chaque fois que je rencontre des militaires, c'est que les capitaines sont très jeunes. Dans le temps, pour moi, un capitaine, c'était un vieux.
Très vieux, oui.
Et maintenant, donc, la nouvelle génération des capitaines est beaucoup plus jeune.
Vous expliquez ça vraiment ou c'est un mystère ? C'est un mystère.
Non, j'explique, c'est qu'on devient un capitaine de plus en plus jeune.
Ah, c'est ça.
C'est ça.
À moins que...
Bon, ah, enfin. Non, je vois pas d'autre explication. Alors voilà, c'est donc professeur universitaire et écrivain de plus en plus jeune.
Cet auteur, mais sa carrière ne se limite pas simplement à la rédaction de ce livre, parce que c'est époustouflant votre carrière. Vous m'avez dit quelques mots tout à l'heure. Alors vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université de Savoie. C'est curieux d'être en Savoie, parce que vous êtes en fin de compte un Varois. Vous êtes à Toulon.
Oui, c'est cela. Je vous dis tout d'abord bonsoir. Bonsoir également aux auditeurs de Radio Courtoisie. Vous m'avez déjà invité il y a 2 ans pour parler de la marine sur les ondes. De votre radio et j'apprécie beaucoup.
Parler de Marie sur les ondes, c'est naturel quand même. Hein.
J'apprécie beaucoup de revenir ce soir vous parler effectivement d'Abraham Duquesne.
Eh bien, nous allons en parler. Alors, je vais faire quand même un petit peu, non pas votre panégyrique, parce que vous êtes trop jeune pour que je fasse votre panégyrique, mais enfin dire un peu tout ce que vous faites, c'est extraordinaire. Alors, vous êtes rédacteur en chef des publications de la Commission française de l'histoire maritime. Vous avez participé bien sûr au dictionnaire du grand siècle de notre ami François Bluche. Vous avez fait un ouvrage sur les campagnes de mer sous Louis XIV. Enfin, vous avez été depuis toujours attiré par la mer et vous êtes très spécialisé en fin de compte sur la marine d'ancien régime, disons de Louis XIII à la Révolution française.
Et apparemment, vous êtes marin aussi, non ?
Non, je ne suis pas.
Curieux, vous avez un visage de marin.
Marin, mais je suis né à Toulon, effectivement, en 1951. Et j'ai eu une enfance bercée par la mer, par la vue du port, par notamment un superbe bâtiment qui était le Jean Bar, qui se trouvait dans la rade de Toulon en descendant la rue d'Alger. Alors le Jean Bar et non pas le Duquesne, mais effectivement je suis toulonnais d'origine, sinon toulonnais de souche. Et Pierre Chenu, qui est un maître pour qui j'ai la plus profonde estime, avait écrit un jour dans un rapport à mon sujet, né à Toulon, le doigt du destin.
Le doigt du destin, oui, c'est tout vous a montré, la mer, le vaste océan. Et j'ai oublié quand même quelque chose d'important, c'est que votre premier ouvrage, en fin de compte, c'est une thèse universitaire sur les officiers généraux de la Marine royale de l'Ancien Régime. Et c'est une thèse qui fait, Serge, 3547 pages. Ça vous dit quelque chose ?
J'en demeure étonné.
Quelqu'un vous a aidé pour la taper, j'espère, ou vous l'avez fait vous-même ?
Ah non, je l'ai tapé entièrement. Je l'ai d'abord travaillé. Effectivement, étant né à Toulon, je faisais mes études à l'université de Nice, puisque Toulon appartient non plus à Aix, lorsque j'avais eu mon bac en 1969. et j'ai dû faire un sujet de maîtrise en histoire régionale. J'avais donc choisi les officiers de marine provençaux à Toulon au XVIIIe siècle, en 1973. Il y a donc 20 ans de cela, et effectivement, depuis 20 ans, j'ai travaillé sur la marine des 17 et 18e siècles.
Comme quoi on peut être bachelier d'après 68 et pas forcément complètement nul.
Ah, non. Non, vous êtes, pourquoi vous êtes bachelier d'avant 68 oh
bah, je ne suis pas bachelier du tout.
Ah bah voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire. Alors nous allons parler maintenant d'un personnage aussi important que Serge Beckett, c'est d'Abraham Duquesne, si vous voulez bien.
Aussi important que moi, vous croyez?
Oui, aussi important que vous.
Oui, il parlait moins souvent à la radio.
Il parlait moins souvent à la radio, mais il savait se faire entendre. Et parlons un petit peu de comment la passion de Duquesne vous est venue, parce qu'il est normand, vous êtes toulonnais, à la limite il n'y a que la mer et la navigation qui a pu vous rattacher l'un à l'autre.
Oui, mais après donc ce mémoire de maîtrise auquel je faisais allusion à l'instant, j'ai passé les concours, je me suis retrouvé professeur au Havre, au lycée François Ier. Et c'est là que j'ai fait mes deux thèses de troisième cycle et d'état sur la marine d'Ancien Régime. Et j'ai vu effectivement la statue de Duquesne à Dieppe, qui est sur la place principale de Dieppe. Et depuis 3 ans, je travaillais à cette biographie parce que Duquesne est, alors ce jour de la Saint-Louis, aujourd'hui, on peut dire que c'est le plus grand marin du règne de Louis XIV. Et c'est un marin qui a vécu très longtemps, ce qui lui a permis d'ailleurs d'acquérir beaucoup de gloire, dans la mesure où à une époque où la mortalité était importante, aussi bien à bord des vaisseaux que dans la société d'Ancien Régime, Duquesne a survécu finalement petit à petit à tous ses supérieurs, puis également à tous les officiers de son grade, à tous ses camarades. Et il a vécu donc de 1610 à peu près, on ne sait pas au juste sa date de naissance, entre 1604 et 1610, et il est mort en 1688, entre 78 et 84 ans. Et par conséquent, c'est le marin de Louis XIV qui a vu l'essor, enfin la naissance puis l'essor de la totalité de la marine française pendant une soixantaine d'années. Il a servi plus de 60 ans, il a commencé sous Richelieu et il a servi ensuite sous Colbert, et il est mort donc 5 ans après le grand Colbert, qui était mort en 1683. Et je dis donc dans mon livre que c'est en quelque sorte l'éminence grise du grand Colbert, car Duquesne est à la fois un marin, mais aussi un homme en quelque sorte de cabinet qui a préparé toutes les grandes ordonnances, notamment la grande ordonnance que Seignelay, le fils de Colbert, va codifier en 1689 et dont une partie est encore aujourd'hui en vigueur.
Oui.
Et donc Duquesne, en cela, reste un personnage d'actualité, puisque nous avons encore dans la marine nationale aujourd'hui, j'allais dire la marine de guerre.
Dans la royale, on peut dire.
Dans la royale. Effectivement, nous avons encore aujourd'hui une unité qui répond au nom de Duquesne, qui est à peu près le 10e bâtiment de ce nom depuis la mort de l'illustre Diepois.
Alors on raconte que Colbert avait ordonné la plantation de chênaies qui devait servir à fabriquer les bateaux de l'an 2000. C'est probablement Duquesne qui lui a inspiré cette...
Duquesne a inspiré beaucoup de choses au grand Colbert. C'est un spécialiste effectivement des bois et de la construction navale. Duquesne a eu une formation telle qu'on l'avait sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire une formation auprès de son père, qui était, avant de devenir capitaine de vaisseau du roi sous Richelieu, qui était en fait quelque peu pirate, et presque plus pirate que corsaire, qui détroussait des bâtiments hollandais alors qu'on n'était pas en guerre avec la Hollande dans les années 1626-1628, et qui essayait de faire croire ensuite qu'il avait pris ces bâtiments parce qu'il les pensait anglais, parce qu'effectivement on était en guerre avec les Anglais à ce moment-là. Et sous l'autorité de son père, il a eu une formation de marin complète à la mer, puisqu'il est allé aux Indes dès 1618-1619, lorsqu'il avait une dizaine d'années seulement, et il a eu aussi une formation de constructeur, comme vous êtes en train de le mentionner, et à Dieppe, il a travaillé sur les quais du port, il a appris comment fabriquer des coques, des mâts, et il va être le spécialiste de la construction navale pendant toute l'époque colbertienne. Alors, il va effectivement donner des renseignements au grand Colbert sur l'usage des forêts, notamment dans les Alpes, mais aussi dans le reste du royaume, puisque l'une des particularités de Duquesne est d'avoir servi dans l'ensemble des ports français. Il a servi aussi bien à Toulon pendant une partie de sa vie, où il a commandé la marine, c'est-à-dire où il a été l'équivalent de préfet maritime, dirions-nous aujourd'hui. Il a servi également à Brest très longtemps, également dans les fonctions de commandant de la marine. Il s'est également dépensé au Havre, à Dieppe bien sûr, son port natal, mais également à Nantes, où c'est lui qui est allé arrêter la flotte de Fouquet en 1660, puisque Fouquet était en même temps armateur. Il s'est dépensé à Bordeaux pendant la Fronde en 1650, puisqu'il était aux côtés du roi. L'une des grandes particularités de Duquesne, et je crois que c'est ce qu'il faut retenir, c'est d'avoir toujours été au service de la monarchie, que ce soit sous Louis XIII, que ce soit sous Louis XIV, avec, chose très curieuse, une mention, il était protestant. Et ce protestant, il faut peut-être le dire tout de suite sans déflorer le sujet, sera le seul calviniste qui ne sera pas chassé du royaume en 1685 par la révocation d'édit de Nantes, alors que des militaires, comme le maréchal de Chambert, par exemple, ont été prier soit de se convertir, soit de s'exiler. Louis XIV, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ce jour de la Saint-Louis, on peut dire que Duquesne est un hommage à Louis XIV, c'est le seul protestant à avoir pu mourir dans le royaume entre 1685 et 1688. Il est resté 3 ans dans le royaume, mais il n'a pas eu d'obsèques chrétiennes.
Pour ce qui est d'être, alors puisque vous parlez d'Abraham Duquesne protestant, avant que nous allions plus avant dans notre connaissance du personnage, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Nous allons faire une petite pause. Je sais que Serge n'aime pas les petites pauses, moi j'adore les petites pauses musicales, parce que je vais vous faire entendre 2 choses intéressantes. La première, c'est un psaume polyphonique de l'époque, bien sûr de l'époque de Louis XIV, qui est d'ailleurs de Dumont, je crois, pour la musique, qui montre l'effort des catholiques pour se réapproprier un petit peu, justement, les psaumes chantés des protestants. Bon, il y a une espèce aussi de réaction catholique qui s'est inspirée, qui s'est appliquée aussi dans la belle musicale. Et puis, tout de suite après avoir entendu ce psaume, nous allons entendre, c'est très intéressant Serge, là je crois que ça va beaucoup vous plaire quand vous aurez fini sur mon croisé, vous allez trouver que ça a été très très intéressant.
Je suis plongé dans la loi et les prophètes, c'est-à-dire le dictionnaire Hachette qui nous indique, voyez monsieur, si vous aviez regardé le dictionnaire avant d'écrire votre livre, vous sauriez que Duquesne est né en 1610, parce que le dictionnaire est absolument péremptoire. Donc regardez toujours le dictionnaire, ou alors est-ce qu'il faut dire aux enfants qui nous écoutent, ne considérez pas forcément le dictionnaire comme la loi et les prophètes.
Le dictionnaire c'est un peu comme les bonbons, pour pas en abuser quand on est enfant. Hein.
Voilà.
Et tout de suite après ce psaume que nous allons entendre chanter, donc c'est une polyphonie, nous allons entendre ce psaume déclamé, mais avec les intonations, c'est une reconstitution de la façon dont on prononçait le français à l'époque de Louis XIV, et donc peut-être la façon dont notre ami Abraham Duquesne parlait aussi le français. Alors nous allons entendre d'abord la musique, c'est-à-dire la polyphonie, et ensuite nous allons entendre la façon de prononcer le français au XVIIe siècle.
Thank you. Regarde-moi, d'où viens que dans l'excès des maux où je me vouais, tu m'abandonnes à l'orage. Tu t'éloignes lorsque mes pleurs, mes plaintes, mes soupirs, par leur triste langage, te font entendre mes douleurs. Je passe les jours et les nuits à gémir, à pleurer, à raconter mes ennuis, mais je te trouve inexorable. Sans que l'on me puisse accuser que d'une folle erreur, ayant l'esprit coupable, je t'oblige à me refuser.
C'est quand même assez extraordinaire, Serge. Qu'est-ce que vous en pensez, ça?
Je dois dire que c'est un remède, parce que si une demoiselle me parlait comme ça pour me séduire, je crois que j'aurais du mal à résister à l'envie de rigoler.
Résister?
Bon, moi, je trouve que déjà, voyez-vous, qu'on prononce tout, c'est très pratique pour les dictées. C'est la fameuse dictée de Fernandel, c'est les moutons, les moutons. Il y a beaucoup d'amis méridionaux qui, ayant des dictées à faire quand ils étaient du côté de Marseille tout petits, avaient plus de facilité que les petits nordistes. Parce qu'on leur disait tout, on prononçait les S. Alors c'est curieux, c'est une espèce de langue extrêmement curieuse pour nous, qui tient à la fois, je dirais, de ce qu'on entend encore parfois au Québec, dans la belle province, et puis ce qu'on entend aussi dans le milieu de la France, peut-être en Normandie, c'est très très curieux, c'est intéressant. Alors je veux dire que la personne qui avait fait cette reconstitution phonétique du français, peut-être qui se prononçait encore dans ce beau pays il y a trois siècles, c'est Madame Nicole Rouillet. C'est intéressant. Hein.
Oui, très très intéressant.
Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Ah oui, c'est très intéressant, et effectivement, on peut se demander comment parler du Kane avec l'accent cauchois, sans doute, et d'une famille du pays de Caux, originaire de Blangy. Et on ne sait rien sur cet accent. Autant on sait que Suffren, un siècle plus tard, exactement, en 1788, Suffren ou Suffren avait l'accent provençal, et ceci est dit dans différentes sources archivistiques, autant on ne sait rien du tout sur le parler du Grand Diepois.
Alors, vous avez dit que, mais c'est son problème, le problème qu'il a eu à cette époque un peu difficile au plan religieux, c'est qu'il était, calviniste, n'est-ce pas?
Oui, Duquesne est avant tout un homme de foi. C'est un protestant convaincu, d'une famille protestante, peut-être du côté maternel un grand-père pasteur dans la région de Dieppe. Et chose curieuse, ce protestant convaincu a eu une ouverture d'esprit au point d'épouser une jeune catholique en 1661, Gabrielle de Bernières, ce qui peut paraître déjà curieux. Et la deuxième chose qui paraît très curieuse, c'est en 1628, lors du fameux siège de La Rochelle, qui était autrefois dans tous les bons malais Isaac et dans tous les ouvrages d'histoire où on voyait Richelieu attaquer avec sa cape et son armure le port rochelais défendu par Jean Guiton, le maire de La Rochelle, dans des conditions d'ailleurs effroyables, puisque les rochelais, dit-on, se faisaient faire des saignées de façon à offrir une sorte de boudin fricassé à leurs enfants qui mouraient de faim, puisqu'il n'y a eu que 5000 survivants sur 15000 personnes à La Rochelle. Eh bien, chose curieuse, Abraham Duquesne était dans la flotte royale, donc contre les protestants en 1628, à la différence de son père, capitaine de vaisseau depuis 1626, qui lui a refusé de servir. Alors, ce mariage avec une catholique, cette participation au siège de La Rochelle dans la flotte royale, ne nous laisse pas attendre la résistance de Duquesne à partir des années 1680.
Pardon de vous couper, c'est curieux d'évoquer ces tragédies que vous notez en passant. Le lendemain de la Saint-Barthélemy, car je ne me trompe pas, hier c'était la Saint-Barthélemy.
Tout à fait, mais aujourd'hui c'est la Saint-Louis, c'est mieux quand même.
Aujourd'hui c'est la Saint-Louis. Oui. Vous avez remarqué, j'ai pas dit de mal des protestants.
Non, mais j'en ai pas profité. Personne ne dit de mal des protestants.
Non, mais d'habitude, moi j'en dis, mais là j'ai décidé d'arrêter parce que il y en a qui m'écrivent tellement gentiment.
Nous devons être, Serge, dans la même disposition d'esprit vis-à-vis des protestants. Vous qui êtes catholique, un catholique même parfois un peu intransigeant, nous devons être dans la même disposition d'esprit que Louis XIII. Il y a une très belle citation de Louis XIII, là je ne connais pas par cœur, mais je l'avais apporté ça parce que nous allons parler aussi de ce thème. Louis XIII qui déclarait à l'un de ses vaillants soldats huguenots, il y en a eu qui ont combattu aussi pour Louis XIII, « Je vous laisse en votre liberté, rien ne doit plus être libre que les consciences que Dieu sait mouvoir quand il lui plaît. »
Oh, c'est laxiste, tout ça.
Oui, et je trouve ça quand même très intéressant.
Et Abraham Duquesne, en 1685, a été prié de se convertir. Et depuis les années 1683, surtout avec la pression de Seignelay, le fils de Colbert, après la mort de Colbert, il a été prié de se convertir. Il a rencontré Bossuet, d'ailleurs, à différentes reprises, mais il a refusé d'abjurer et il aurait préféré l'exil plutôt que l'abjuration. Et en 1685, Duquesne était un homme très riche et on voit des mouvements de fond dans la famille Duquesne. Il est allé acheter en Suisse une superbe demeure à Aubonne, dans le canton de Vaud, où son fils aîné, Henri, qui était capitaine de vaisseau, qui lui a démissionné de la marine pour pouvoir s'exiler et a refusé d'abjurer, où son fils Henri donc s'est installé avec son épouse et ses enfants. Et c'est dans le canton de Vaud que le cœur et les entrailles de Duquesne se trouvent aujourd'hui dans une urne, puisque lorsqu'il est mort en 1688, les archers du roi ont surveillé la maison de la veuve Duquesne, donc née catholique, née Gabrielle de Bernières, et on a enterré Duquesne d'une façon assez indécente, nuitamment, dans un château que Louis XIV lui avait offert. C'est l'un des rares exemples de cadeau de cette importance, le château du boucher Valgrand, qui existe toujours, qui appartient aujourd'hui à l'ancienne société des Poudres et Salpêtres, ce qui est assez curieux, donc pour la demeure de ce grand militaire Louis XIVien. Et Duquesne a été enterré dans les fossés donc de cette demeure seigneuriale, sauf son cœur et ses entrailles qui sont dans une urne toujours en Suisse aujourd'hui.
Donc c'est grâce du roi, enfin de Louis XIV à l'égard de Duquesne, vient aussi du service tout à fait éminent qu'il rend à la couronne, c'est-à-dire qu'il rend à l'État et donc à la France en fin de compte. Et ce que j'aimerais savoir, c'est donc à quel moment se situe sa carrière dans l'effort de la monarchie de doter la France d'une flotte, d'une marine digne de ce nom.
Alors la carrière de Duquesne, je le disais en introduction, a duré plus de 60 ans. Il entre au service en 1626, il prend sa retraite le 1er janvier 1686. Mais avant 1626, il avait été quelque peu corsaire et pirate auprès de son père. Par conséquent, dans une carrière aussi longue, il y a forcément des moments forts, et vous avez raison donc de parler d'étapes dans cette carrière. Il y a une première étape qui est celle où Richelieu est nommé grand maître, chef et surintendant général de la navigation et commerce de France. Donc 1626-1642, qui est la mort du cardinal. Et Duquesne, pendant cette première période, a essayé déjà d'œuvrer pour doter la marine française, pour doter la France plus exactement, d'une marine digne de ce nom. Il l'a d'autant plus essayé qu'à partir de 1635, la France entre en guerre contre l'Espagne,
pour la fameuse guerre qui va durer 24 ans jusqu'au traité des Pyrénées en 1659 qui dotera la France du Roussillon et de Perpignan lors du mariage de Louis XIV avec l'infante. Et pendant cette première période, Duquesne a déjà essayé d'œuvrer pour doter la marine, pour doter la France donc d'une marine. Mais il s'est fait de très nombreuses inimitiés. Il était roturier, il était protestant, il s'est attiré de très nombreuses jalousies et il va préférer émigrer dans un pays luthérien qui est la Suède à partir de 1642 au moment de la mort de Richelieu jusqu'en 1647. Et il va être amiral-major de la reine Christine en Suède. Il va avoir une carrière à l'étranger. À partir de 1647, c'est la deuxième grande étape donc de sa vie. Il revient en France, mais il sait ce qu'il vaut. Il sait qu'il est un excellent constructeur parce que son père lui a appris le métier. Il sait qu'il a déjà beaucoup navigué. Il sait qu'il est un corsaire donc redouté. Et par conséquent, en 1947, il négocie son retour d'une façon tout à fait étonnante. Il accepte de revenir à Dieppe à condition d'être fait officier général, alors qu'il n'a que 37 ans. Et il est promu chef d'escadre des armées navales, chef d'escadre de Dunkerque, puisque Dunkerque vient d'être prise par les armées du roi en 1947, ce qui va d'ailleurs permettre à Jean Bart de naître français en 1650, trois ans plus tard, et d'être baptisé en l'église Saint-Éloi de Dunkerque. Et il devient donc officier général d'une façon tout à fait exceptionnelle, car en 1647, il a 37 ans, le jeune Louis XIV a 9 ans, et c'est la première fois que Louis XIV voit la mer, parce que Louis XIV, avec Anne d'Autriche et Mazarin, sont allés attendre ce jeune homme, en quelque sorte, ou cet homme encore jeune, à Dieppe, et les vaisseaux qui arrivent de Suède, le Jupiter, le Lion de Smalandre, enfin cinq vaisseaux en tout, qui portent Duquesne et ses frères, arrivent dans la rade de Dieppe au son du canon. Ils offrent un spectacle de combat naval aux yeux de ce jeune Louis XIV qui n'a jamais encore vu la mer. Alors la deuxième étape commence très fort, donc officier général, et en 1650, pendant la Fronde, Louis XIV va aller à Bordeaux pour essayer de mater la ville qui est prise et défendue par l'un des chefs de la Fronde, qui est le Grand Condé, et là encore, Duquesne, qui est un Normand très avare, très âpre au gain, est à Bordeaux. Et pour la deuxième fois, il rencontre Louis XIV et il est à Bordeaux parce qu'il a armé à ses frais, ce qui est extraordinaire quand on connaît l'âpreté et l'avarice véritablement de Duquesne. Il a armé à ses frais des vaisseaux pour permettre à Louis XIV de rentrer dans une ville qui est déchirée par le mouvement frondeur. Et à partir de ce moment-là, la deuxième étape va durer finalement jusqu'à 1685. Duquesne devient l'homme de la marine. Alors en 1660, il est du bon côté puisqu'il choisit Colbert contre Fouquet. On va dire qu'il choisit la couleuvre, n'est-ce pas, pour faire allusion au blason de Colbert contre l'écureuil qui représente les armes de Nicolas Fouquet, puisque Fouquet était d'Anjou et que Fouquet en angevin veut dire écureuil. Et il choisit donc Colbert, et à partir de 1660, il va rester pour plus de 20 ans, jusqu'en 85, le pilier de la marine française.
Alors est-ce qu'on peut dire que cette marine française se constitue à l'époque de Louis XIV, c'est-à-dire avec ce duo exceptionnel Duquesne-Colbert, et bien sûr avec la volonté du roi par-dessus l'affaire, pour arriver, peut-être on peut parler quelques minutes de cela aussi, parce que je sais que vos connaissances qui sont époustouflantes, moi je suis époustouflé, vous connaissez tout, la marine française va arriver à son apogée à peu près sous le règne de Louis XVI.
Oui, alors la marine française a eu des heurts et des malheurs qui sont bien connus. C'est très dommage que dans l'opinion publique française, on ait surtout retenu Trafalgar en 1805 et que finalement des grandes victoires comme du temps de Duquesne ou du temps de Tourville, son successeur, soient pratiquement occulté dans les manuels scolaires et totalement oublié. La marine française, entre 1600 61, c'est-à-dire entre Colbert et puis Louis XVI, dont vous parlez à l'instant, et la Révolution française en 1789, pendant ces 120 ans, va évoluer de la façon suivante. Du point de vue des effectifs, tout d'abord des personnels, Duquesne met sur pied une marine qui comprend au moment de sa gloire, en 1676, lorsqu'il va tuer Ruyter, le plus grand des marins hollandais de son temps, une marine qui comprend 428 officiers. En 1789, à la date du 1er janvier, elle va compter 1657 officiers, donc 4 fois plus, avec sur la liste du 1er janvier 1789 un homme comme Lapérouse, puisqu'on ignore encore qu'il a disparu l'année précédente. Donc des effectifs qui vont multiplier.
On sait que Louis XVI, prisonnier en fin de compte, il était déjà plus roi, enfin il n'était plus d'exercice pour ainsi dire, et jusque dans sa prison du Temple, dans les derniers mois de sa vie, se préoccupait encore de savoir ce qu'était devenu l'expédition de la Pérouse.
Tout à fait, il a envoyé d'Entrecasteaux, qui va mourir d'ailleurs en 1793 lui-même en mer, pour rechercher cette expédition de la Pérouse. Alors au niveau des effectifs, je viens de donner les chiffres pour les officiers, au niveau des équipages, il faut compter à peu près 50 000 gens de mer dans la France, aussi bien de Louis XIV que de Louis XVI. Alors, en ce qui concerne les effectifs matériels, les bateaux, par exemple, on a du temps de Colbert, en 1690, à peu près 120 vaisseaux. C'est le maximum que la France de Louis XIV ait eu lors de la très grande victoire de Béveziers en 1690. Ensuite, la marine française, après 1713, après la paix d'Utrecht, après la mort de Louis XIV en 1715, va peu à peu s'enliser jusqu'au malheur de la guerre de 7 ans, qui va voir en 1763, au traité de Paris, la perte d'une grande partie des colonies, et notamment, puisque vous parliez de Québec tout à l'heure, la perte du Canada français en 1763. Et ensuite, la marine va revenir à l'état qui était le sien sous Louis XIV, dans les années de la guerre d'indépendance américaine, où elle va aider donc les insurgents, entre 1778 et 1783, à devenir les États-Unis.
Écoutez, ce que vous nous dites, c'est absolument fantastique, faut dire, c'est extraordinaire. Vous connaissez tout par cœur. La façon dont vous connaissez tout par cœur, il faudra que vous reveniez nous voir.
Ah, mais très volontiers, alors, c'est toujours un plaisir.
J'espère que l'actualité nous permettra bientôt de vous réinviter pour parler de Duquesne ou de la marine de l'Ancien Régime, ou peut-être du nouveau livre que vous préparez, qui n'a rien à voir avec la France. C'est d'Henri le Navigateur, donc un enfant portugais, mais aussi qui a lancé ce tout petit pays vers un empire extraordinaire. Alors, je rappelle à nos auditeurs que le livre dont nous parlions en compagnie de son auteur, M. Michel Verger-Franceschi, s'appelle Abraham Duquesne, Huguenot et Marin du Roi Soleil, c'est édité aux éditions France Empire. Alors, pour vous récompenser, je vais récompenser les intervenants qui ont l'habitude de venir, on va passer un tout petit bout de musique, si le technicien le veut bien, on va écouter encore du Lully, hein, parce que moi j'aime bien Lully,
je vous remercie.
C'est l'époque, et on va écouter un petit morceau de la marche du régiment du roi.
Merci.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, assisté de Victoria, du 25 août 1993, diffusé le 23 mars 2014 dans la nuit de 2h à 5h, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.